Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast, épisode où on parle de films. Comment on pourrait appeler ça? Parce que finalement, j'appelle ça TFTC le podcast, mais là, quoi, il n'y a pas un nom à donner? Vous avez une petite suggestion?
Bah déjà, bonjour.
Pardon?
Déjà, bonjour.
D'accord.
Parce que tu ne nous as pas salué, mais avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour.
Je me fais gronder. Je me fais gronder dans
le Non, mais attends, parce que d'habitude, tu dis la phrase qui est consacrée.
Ah oui, attendez, oui, je vais
à côté de moi dans ce studio,
oui,
Guillaume et Aurélien, parce que là, tu l'as pas
oui,
dit.
Oui, mais c'est vrai, je ne l'ai pas fait, c'est la tradition.
Ben oui, c'est la tradition.
À côté de moi dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous?
Ah bah voilà.
Ça va très bien, et toi?
Voilà.
En fait, je suis perturbé parce qu'il faudrait peut-être donner un petit nom. Y a pas personne avec des petites idées là pour
la filmothèque.
La revue.
C'est toujours relou les noms de podcasts comme ça.
Cahier de TFTC.
Non, mais tu sais, c'est toujours des vieux jeux de mots qui puent la merde.
Ouais,
tu vois.
Clap de fin. Allez.
À la liste.
Ça tourne. Action.
Ça tourne.
C'est les
plus.
La bobine, la péloche.
La péloche, putain.
Les bonnes péloches.
Bon, on va voir.
Non, on va l'appeler, sûr, on va l'appeler TFTC.
Ouais, voilà. Et je pense que c'est mieux.
On va voir.
Comment ça va, les gars? Ça va bien?
Ça va, et toi?
Ouais, très bien. Vous savez que la semaine dernière, on a commencé par une petite nouveauté, à savoir Actu Ciné.
Yes.
J'ai l'impression qu'on n'est pas allé voir beaucoup de films ces derniers
j'en
temps.
J'en ai vu, moi.
Ah, génial. Je me disais, est-ce qu'Aurélien en a vu?
Si, j'en ai vu pour une fois.
Au cinéma?
Ouais.
Ah, bravo. Bah, j'ai pas eu le temps.
Bah, écoute, on a vu un film.
Ah, nous, on a vu ensemble, oui.
Mais voilà, mais on va parler de. On va laisser commencer Aurélien, parce que nous, on va parler avec Guillaume après d'un film.
Qu'on explique le concept? Parce que ceux qui n'ont pas écouté les présents précédents, en fait, on présente des films, quoi.
C'est ça, en fait, oui. Voilà.
Oui, parce que.
Là, on va parler un peu d'actu ciné, ce qu'on a vu au cinéma dernièrement.
Exactement.
Ou alors sur les plateformes, les nouveautés. Et puis après, on présentera un film chacun, qu'il soit récent ou vieux. Un titre de chanson également chacun. Et on va parler un peu de tout ça. Aurélien, qu'est-ce que tu as vu dernièrement au ciné?
Eh bien, ce week-end, je suis allé voir Le Procès Goldman de Série Cannes. Un film sur une histoire vraie de Pierre Goldman, un mec qui a eu une vie assez extraordinaire, j'ai envie de dire, puisqu'il a vécu un peu une vie de révolutionnaire. Il est parti se battre avec des gens en Amérique du Sud pour la Révolution. Et après, en revenant en France, il a été accusé de 3-4 braquages à main armée, dont un dans lequel il aurait tué deux pharmaciennes, en fait.
C'est une histoire vraie?
C'est une histoire vraie.
Ok.
Et en fait, pour remettre dans le contexte du film, il y a eu un premier procès où il a été accusé à perpétuité, de prison à perpétuité, à cause de justement ce meurtre des deux pharmaciennes. Et en fait, il y a eu un mouvement dans les années 70 autour de sa perpétuité, quoi, parce qu'il a écrit un bouquin. Et derrière ce livre, il y a plein de grandes personnalités du communisme français qui se sont un peu offusquées, notamment Simone Signoret, qui a fait un peu des pétitions, qui a un peu pris parti pour lui. Et derrière, la Cour de cassation a cassé son jugement. Et donc arrive ce deuxième procès, où en fait, qui va être le sujet du film. En fait, là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment les lignes qui sont expliquées au tout début du film. Et donc, ce deuxième procès est un. Bah, en fait, il est d'accord avec le fait qu'il est accusé sur les 3 braquages où il n'y a pas eu de violence, mais il dit: j'ai jamais tué ces deux personnes, et je suis pas d'accord, et je suis contre. Et en fait, c'est trop bizarre comme film, parce que c'est un film avec aucun artifice. C'est-à-dire que c'est tourné. Enfin, le plan est carré déjà. Il n'y a pas de musique. Il n'y a aucune mise en scène.
Sans fioriture, quoi.
Ouais, et c'est uniquement. Et au début, j'étais là, genre, ouais, c'est un peu compliqué, tu vois, d'entrer dedans et tout. Et en fait, tout est basé sur les échanges et les dialogues entre le juge, les avocats, les jurés et l'accusé et les témoins. Et en fait, ça te permet vraiment d'être complètement immergé dans ce procès. et d'apprendre un peu à savoir qui est la personnalité un peu atypique de Pierre Goldman et qui était ce personnage un peu fou des années d'après-guerre finalement, avec son père qui était un résistant juif polonais, qui s'est beaucoup battu, sa mère aussi, qui est retournée en Pologne, qui était une grande activiste communiste, comment lui il a vécu tout ça, comment lui il est devenu aussi révolutionnaire, comment il s'est retrouvé un peu à être dans des actions armées, et ce que ça voulait dire à l'époque, et sur quoi ça l'a amené. Et franchement, le film est un peu étrange, parce qu'en vrai, c'est une sorte d'énorme pièce de théâtre. C'est vraiment comme si on avait un petit peu mis en scène un procès, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est presque un documentaire, quoi. C'est presque sans fioriture. Mais par contre, ce qui est fort, c'est les performances des acteurs.
Oui, c'est ce que j'avais entendu quand il était sorti à Cannes pendant le festival. Et ouais. D'ailleurs, ça avait fait du bruit, ce film, à l'époque.
Ouais.
Et tout le monde avait loué la prestation de l'acteur principal.
Ouais, bah c'est vrai que pour le coup, c'est les acteurs qui reviennent. Il y a beaucoup de tronches, j'ai envie de dire. Genre, en plus, c'est des acteurs qu'on voit peu. C'est pas des acteurs très connus. Et j'ai trouvé que les prestations à la fois des avocats et du personnage principal sont exceptionnellement bien.
Donc t'as aimé le film, en somme.
Franchement, ouais. Après, il est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis, ça va être ça le film. Tu sais, c'est bizarre. C'est, tu marches un peu...
Moi, ce que j'ai lu sur les réseaux, c'est que, des premiers retours,
ouais.
C'est que les gens étaient un peu mitigés en mode, si vous aimez les films de procès, les films qui prennent leur temps, etc., vous allez apprécier le film.
Ouais.
Si vous n'êtes pas très chaud sur les films de procès, ça va être un peu long.
Moi, j'avais presque l'impression que c'était un... Au début, j'avais fait, oh, en fait, ça va être un podcast. Et en vrai, c'était pas si éloigné d'être un podcast. C'est-à-dire que tu rentres complètement, t'es immergé dans les dialogues, dans la façon de te raconter l'histoire. Mais j'ai un peu envie de dire, si jamais le médium image n'était pas là, c'était pas des fois très grave, tu vois. Il y a deux, trois images qui sont fortes parce que forcément, il y a comment ils se tiennent, surtout l'acteur principal. Je suis désolé, je mets très peu de détails parce qu'en fait, j'ai vu le film samedi et j'ai pris très peu de notes précises sur le film. Mais mes ressentis, c'est que vraiment, j'ai aimé l'action et l'acting, mais je trouve que oui, ça aurait pu être un podcast, quoi.
Très bien. Il y a d'autres films que tu as vus au ciné ou...
Non, en ciné, en nouveauté, j'ai vu que ça.
Très bien.
Je voulais aller voir The Creator et j'ai pas eu le temps.
Très bien. Guillaume.
Moi, le dernier film que j'ai vu, il n'est pas encore sorti.
Il n'est pas encore sorti, en fait. Je crois qu'il sort à la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une date que je n'ai pas. C'est le prochain film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, qu'on a vu ensemble avec Guillaume il y a quelques semaines. Guillaume, je te laisse en parler en premier.
Eh bien, écoute, déjà, on l'a vu dans une salle exceptionnelle.
Bien sûr.
Voilà, le Pâté Beaugrenelle, pour ceux qui sont à Paris, à savoir, avec des sièges qui peuvent s'incliner, où les jambes se lèvent, on est quasiment allongé, c'est magnifique.
Il y avait des bonbons.
Alors après, comme on est arrivé un peu en retard, on était au tout premier rang.
Oui.
L'écran, il est immense.
Oui, oui.
Il y a toujours une phase d'adaptation de « Oula !»
Oui, oui.
Je vais... Mais sinon, c'était pas mal. J'ai mis un peu de temps à rentrer, un tout petit peu de temps à m'adapter à l'écran, et en fait... Bien rentré dans l'histoire, alors qu'est-ce qu'on peut raconter ou spoiler?
Est-ce que tu veux que je raconte le synopsis du film?
On peut raconter le synopsis du film, après j'aurai une petite anecdote à propos.
Oui, bien sûr. Non, le synopsis du film, donc c'est une histoire vraie, encore une fois. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient, non pas dans sa ville natale, je crois, mais dans un lieu qu'il connaît bien, parce qu'il revient chez son oncle. Ce jeune homme, c'est DiCaprio, cet oncle, c'est De Niro. Et il revient dans un endroit...
Après la guerre.
Après la guerre, où il y a beaucoup d'Amérindiens osages qui y vivent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes blancs viennent là-bas pour louer leurs terrains, parce que les terrains sont possédés par des Amérindiens osages. Et ces terrains intéressent les hommes blancs parce que ce sont des terrains remplis de pétrole. Et comme ces Amérindiens n'ont pas les facultés ou l'envie d'utiliser ces terrains, eh ben, ils donnent de la thune aux Amérindiens pour pouvoir justement prospecter et utiliser leur pétrole. Ça, c'est le synopsis de...
C'est le synopsis de base. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que les familles d'Amérindiens, ce sont les riches de l'histoire, qui sont très riches tous.
Ils ont des domestiques blancs, et ça, je le savais pas.
Ils ont des domestiques blancs. Et en fait, l'idée, c'est que presque... il faut se marier avec un Amérindien ou une Amérindienne pour que ta famille, elle prospère, etc. Tu vois. Et donc, c'est ça un peu le plot du film, c'est que DiCaprio, il arrive là-dedans. Son oncle, il lui dit, tu sais, ici... il faudrait que tu sortes avec une Amérindienne, etc. Donc ça commence comme ça.
Il y a moyen de se faire de la thune.
Il y a moyen de se faire de la thune. L'idée, c'est qu'ils cherchent de la thune à tout prix, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut... On spoil pas, du coup, mais bon.
Non, l'idée, c'est pas de spoiler, mais moi, c'est vraiment... Typiquement, alors, je sais pas ce que t'en as pensé, Guillaume, mais d'ailleurs, on en a pas reparlé après. On en a parlé un peu vite fait quand on est sorti de la salle, mais on n'a pas reparlé du film après. Et moi, plus les jours passaient, et plus j'ai repensé à ce film, ce qui est bon signe en général, ouais. Et plus je me suis dit, c'est un film... assez atypique dans la filmographie de Martin Scorsese parce qu'il ressemble à aucun autre. Moi, j'ai presque... Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser...
Mais même par l'histoire qu'il raconte, quoi.
Exactement. Mais je ne sais pas s'il faut utiliser le terme chef-d'œuvre, c'est toujours un peu galvaudé. Ou... Mais en tout cas, c'est pour moi un des peut-être 5 meilleurs films de Martin Scorsese. Et surtout, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on retrouve un Robert De Niro aussi effrayant.
Il a l'air méchant dans le film.
Ouais, depuis Taxi Driver, il y avait eu quoi ? Après, il y avait Cap Fear. Ouais. Et puis même, je pense que la dernière fois qu'on l'a vu aussi méchant, c'était dans Le Fan de Tony Scott.
Ah, horrible.
Et là, ouais, on a retrouvé un De Niro un peu effrayant comme ça. Et puis, il y a un truc comme ça. Et puis, toute la perfidie de De Niro dans le film, j'ai l'impression que ça confère un peu à l'ensemble un côté un peu épouvante. Comme si c'était, enfin, pas épouvante, mais en tout cas, c'est peut-être le film le plus effrayant de Martin Scorsese, quoi, par certains aspects. Et là où la prestation de Robert De Niro est incroyable, c'est qu'il est mi-effrayant, mi-ridicule. Je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais en fait, il y a des scènes où parfois... donc voilà, il est beau, il est très perfide et très vicieux avec les Amérindiens. Ouais. Et en fait, il y a des scènes où il se met à parler en Amérindien pour les amadoués, ce genre de choses. Et puis... il y a des moments où il roule avec sa voiture, puis il a des lunettes de conducteur, et tout ça, c'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est effrayant, etc. C'est vraiment du grand De Niro.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce que j'allais dire, c'est que peut-être que c'est même c'est ce que tu disais pour Les Amadoués, etc. Je pense que c'est presque tout un film. C'est pas tout un film sur la confiance, quoi. C'est,
oui, bien sûr.
Est-ce que je fais confiance à mon oncle, mais est-ce que je dois faire confiance à mon mari ? C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais plus à un moment à qui tu dois faire confiance. Notamment, d'ailleurs, il faudrait saluer la prestation de l'actrice qui joue la femme.
Bien sûr. Qu'on a vu dans. Et que moi, j'avais découvert dans certaines. Qui s'appelle Lily Gladstone, je crois. Qu'on a découvert dans Certaines Femmes de Kelly Reichardt. Et qui était déjà extraordinaire dans ce film. Où elle jouait le flirt de Kristen Stewart.
Exact, ah ouais, d'accord. Ouais. Je ne l'avais pas remise.
Elle jouait dedans et elle joue extrêmement bien. Et oui, et comme tu dis, c'est un film sur est-ce qu'il faut faire confiance aux gens, mais surtout est-ce qu'il faut faire confiance à l'homme blanc aussi, tu vois.
Faire confiance à l'homme blanc, mais il y a tout le temps, en fait, tout est basé sur des rapports de force, de confiance entre. En fait, tout est un peu pourri, quoi. Tous les rapports sont pourris, en fait. C'est-à-dire que, elle, le rapport avec sa famille, il est pourri un peu, parce que, bah, en gros, sa mère, eh ben, elle préfère une des sœurs, et en gros, enfin, tu sais, il y a toujours des trucs comme ça. Elle, son mari, bah. Il l'aime, mais à la fois, il adore la thune. Alors du coup, il est un peu... L'oncle, bah, il a un sens de la famille méga horrible, quoi.
Et d'ailleurs, ouais. On parle de De Niro, mais DiCaprio est extraordinaire dans le film.
Ouais, DiCaprio,
surtout qu'il est... Pour la première fois, il est grimé. Et nous, on connaît DiCaprio comme étant le beau gosse à travers des films qu'il a fait connaître, comme Titanic, etc. Film. Et là, pour la première fois, il est grimé en mec un peu chum. Il a des dents dégueulasses, il a une mâchoire un peu dégueu,
et
etc.
Je me suis dit ça. Ouais. J'ai dit, tiens, ouais. C'est fini. DiCaprio, c'est plus un beau gosse.
Ouais. Tous les acteurs sont extraordinaires.
Il y a aussi gros Matt Damon.
Et il y a plusieurs, ouais, exactement. Et il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs parties dans le film. Et ouais. Notamment, il y a un moment où tu dis, ah, en fait, les films que tu connais pas. Bon, déjà, il est très long, il dure 3h26.
Oui.
Ah.
3h26, je rappelle, si on fait pas de pause, c'est un trajet Paris-Guéret en voiture. Hein.
Paris-Guéret dans la Creuse.
Paris-Guéret dans la Creuse. Donc c'est quand même un peu long. Donc, faut se les farcir. Il y a quand même ce truc où, en fait, moi, la première fois, j'aurais presque aimé ne pas savoir la durée des films avant d'aller les voir. Parce que je me dis, ah, 3h26, et quand je m'assois, je me dis, allez, c'est parti, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, ça passe assez
ça, c'est vrai.
Bien, quoi.
Et par contre, ce qui est super avec ce film, c'est qu'il sort au cinéma. Parce que là, Guillaume et moi, on n'a pas été tentés de regarder notre téléphone. Moi, je pense que si ce film avait été programmé sur Netflix ou autre,
ouais,
on aurait regardé le tel pendant le film. C'est évident.
On l'a regardé en plusieurs parties. Même.
Ou en plusieurs parties. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un grand film.
Donc, pour revenir sur les parties, donc, c'est la première partie qui est un peu le plot du truc. Ensuite, il y a une sorte de dénouement qui change parce que ça se passe. D'ailleurs, il y a l'arrivée d'un personnage, je ne savais même pas qui jouait dedans. Et je me suis dit, ah tiens, il arrive au bout de 3 heures de film.
Ouais,
2h30 de film.
Gros Matt Damon.
On peut dire qui c'est. Ou c'est même pas
sur. Non, parce qu'on a eu une petite surprise, donc
on
c'est
pas mal. On regarde la surprise.
Allez.
Et après, il y a la fin, quand même, qui est genre. En fait, qui se termine, où tu dis, ah, comment il termine le film ? Et d'un seul coup, ça part où. Bref, c'est assez
surprenant. Ouais, ça, on va pas le dire.
La fin, on va pas le dire, mais la fin, elle est assez surprenante.
Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est avec. Moi, j'ai adoré, je l'ai déjà dit, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui va sortir en décembre. Mais avec The Zone of Interest, c'est peut-être, et c'est même très sûrement, la meilleure fin que j'ai vue cette année au cinéma.
Ouais, hein.
La fin, j'ai adoré.
La fin, c'est exceptionnel.
Ouais.
Et en fait, justement, tu dis, ah tiens,
attends, parce que chauffer, là.
Non, mais il y a quand même ce truc de, tu viens de taper 3h26 de film, tu dis, bon, ok, je sais comment à peu près ça va finir. Et en fait, non, tu fais, ah tiens.
Ouais, c'est super. La fin est
incroyable. La fin est très bien. Et si je peux raconter une anecdote à propos de ce film.
J'aimerais juste terminer, parce que je sais ce que tu vas raconter. J'aimerais juste terminer en disant que c'est aussi un film qui raconte comment l'Amérique s'est créée sur des... Bah sur des bases un peu douloureuses, quoi. Des trucs qu'on raconte pas trop. C'est-à-dire que très souvent, l'Amérique, elle est racontée comme le American Dream, tu vois. Mais en fait, avant tout, ça s'est fait sur le sang.
Ah bah là, c'est carrément affreux, là.
Donc voilà, donc je pense que voilà, on a dit assez sur le film, on veut pas trop spoil non plus. Mais en tout cas, on vous le conseille à fond.
Ouais, il est hyper bien.
Et puis aussi, un truc quand même, de se dire que pour moi, en 2023, c'est encore une chance de voir un film réalisé par Martin Scorsese d'une telle qualité, avec des acteurs qui sont aussi bons comme Lee Gladstone, Robert De Niro et DiCaprio. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'espère que De Niro aura une nomination au moins pour l'acteur dans un second rôle, parce qu'il est vraiment extraordinaire.
Mais c'est le premier rôle. Hein.
Et c'est, ouais, pour moi, c'est plus DiCaprio le premier rôle, non ?
Ah, mais tu disais qui là ? Ah, tu disais De Niro.
Dans un second rôle. Et en fait, j'ai lu une interview de Scorsese récemment qui disait que si la santé lui permettait, il ferait peut-être un film, voire deux exceptionnellement. Donc c'est un peu comme Clint Eastwood, on en parle souvent avec Guillaume, faut profiter quand même de ces légendes vivantes tant qu'elles sont encore là.
Si c'est ça son dernier, c'est...
Ah mais là, s'il termine là-dessus, c'est sublime.
S'il termine là-dessus, c'est sublime, je suis d'accord.
Et donc t'as une anecdote.
Mais surtout, on se disait ça, tu vois, en sortant de la séance, c'est un truc qu'on s'est dit, ça se voit que quand même, c'est peut-être même un film où peut-être ses producteurs, ils ont dû lui dire, oh, tu sais, c'est un peu long quand même, etc. Et ouais. Tu sens qu'en fait, ça fait plaisir de voir des réels où tu dis, ouais, là, il se fait kiffer, là.
Ouais, tu vois, il y a un truc où il se dit, regarde,
il se fait des vraies scènes.
Avec la carrière que j'ai, je veux que ça dure 3h26, que me casse pas les couilles. Tu vois.
Et de toute façon,
alors que si son premier film a 23 ans, ils ont dit, ouais, attends, mets-le à quand même à 1h52.
Ouais, le quitter.
Après, en vrai, des fois, les Marvel, ils durent 3h15.
Oui, c'est vrai.
Personne n'est en mode.
Ouais, mais les Marvel, c'est vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire que c'est vraiment 2-3 heures d'action pure, quoi. Tu vois.
C'est vrai.
Parce que là, c'est quand même.
Du lent, quoi.
Ouais, du dialogue, quoi. Ouais. C'est de la psychologie. Et franchement.
Et aussi, quand même, je voudrais quand même dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Ça fait du bien aussi de voir un film où tout est palpable. C'est-à-dire que parfois, tu t'en souviens, Guillaume, il y a des scènes dans la grande allée, là, une sorte de Main Street comme ça, et on voit plein de voitures anciennes, de figurants, des vrais figurants, pas des figurants en CGI comme on peut voir dans les films aujourd'hui et tout. C'est des vrais gens qui sont là, avec des vrais costumes, des vraies voitures, des vraies devantures d'anciennes boutiques. Et moi, j'étais quand même assez épaté de voir ça, et je suis toujours épaté de voir des choses comme ça.
Ouais, c'est exceptionnel. Bravo. Franchement, c'était un grand spectacle. Et grand spectacle aussi pendant la séance, puisque transition toute trouvée. À un moment, je regarde le film, tu vois, tranquille. Alors après, il faut expliquer un truc. Moi, je vous dis, en fait, avant d'y aller, on s'envoie des messages. Je dis, et c'était à 13h. Donc, tu es à 13h, tu manges vite fait un truc, puis tu vas au ciné, quoi. Ouais. Et donc, 13h, et je dis, putain, là, je suis DJ à côté, donc j'avais fini à 5h du mat. Je dis, putain, je vais pas être chaud, tu sais, je vais peut-être m'endormir parce que 3h26 c'est long quand même. Même si le film est génial, tu vois, mais quand t'as pas dormi, c'est chaud.
Ouais.
Et il me dit, ah, bah pareil, je suis claqué et tout ça.
Je m'étais couché à 4h30 la veille.
Ben voilà, tu vois, tranquille. Donc on est là, on rentre dans le ciné, tac, on se met dedans. Je rappelle, les sièges ils sont bien, tu t'allonges, t'es là, bon, t'es bien.
Et le sujet est très sérieux à l'écran.
Le sujet est très sérieux. On avait nos petits bonbecs, on s'est mis comme des papes, tranquille. Et ça fait genre, je sais pas, 1h40 de film, tu vois, tranquille. Une scène un peu importante, quoi, un gros dialogue entre DiCaprio et sa femme et tout. Et j'entends. Il y a un truc, mon gars, on aurait dit mon père à l'ancienne. J'ai fait, je me tourne vers lui, là. Reflex, il était tellement endormi, il était là sur son coude. Il dormait. Et tu sais, je me tourne vers lui. Quand je me tourne vers lui, le mec qui est après JB dans la file, il me regarde, genre abusé et tout. Du coup, je le secoue. Je suis là, genre, oh, oh, oh. Il en faut encore 2-3, genre. Il se réveille comme ça. Et après, je suis désolé, mais les 10 minutes d'après dans le film, j'étais en fou rire. En fou rire dans mon hoodie.
Mais tu sais, on était en sourire alors qu'il y avait des Amérindiens qui mouraient à l'écran. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est relou.
Tu sais, c'était une pure scène où il y avait des bons silences, tu vois. C'est genre, il y a une phrase, un silence, une phrase, un silence, et dans le silence, t'entends. Vraiment, ça a résonné dans la salle, je crois. Mais parce que j'étais à côté. Mais...
J'ai eu 5 minutes de flottement.
Ah, c'était trop marrant.
Mais c'était trop dur.
En plus, marrant.
Le piège aussi, c'est que t'es tellement bien installé dans ces fauteuils.
Mais oui.
C'est comme des lits, en fait.
Ah ouais, ouais.
Donc d'un coup, t'es là, genre.
Ah, mais j'aimerais que toutes les salles soient comme ça. Ah, ah ouais. Ouais, quel confort.
Et en plus, alors moi en ce moment, je vous le cache pas, je suis stressé par ces histoires de punaises de lit. Ou puces de lit, on dit quoi? Punaises de lit,
punaises
de lit.
Punaises, punaises.
Parce que apparemment c'est dans le train, dans le métro, au cinéma, etc.
Il y en a là, je crois.
Bah, ah c'est bon possible. Hein. Non, ouais, c'est possible.
En vrai, c'est possible.
Tu as la paix là.
Si non, mais ça va pas sur le cuir, si, parce que sur le tissu.
Mais tu t'assois. Mais là, c'est le tissu là.
Parce que là, c'est en cuir au pâté Beaugrenelle.
Ah oui, je
sais. Ah oui, tu vois ce que je veux dire.
Ça veut dire que, regarde, la punaise, elle est sur toi là.
Tu t'assois dans le cuir, elle fait ah non. Non, pas c'est le cuir, non. Cuir. Ah non, pas le cuir. Moi, je veux du tissu, moi. N'importe quoi. Ça se trouve, il y en a une dans le cuir, ça veut rien dire.
Mais d'où tu connais le mindset des punaises de lit?
Bah, j'en sais rien, mais c'est quoi cette histoire qu'elles vont que sur le tissu?
Écoute, j'ai lu. C'est...
Ouais, d'accord.
Ça s'intègre.
Et le chercheur de Harvard. J'ai lu ça.
Non, mais à ce qui paraît, c'est hyper relou. Alors là, c'est plus du tout un podcast ciné, mais à ce qui paraît, quand t'as des punaises de lit chez toi, c'est une horreur.
Mais alors, apparemment, j'entends dire tout et n'importe quoi sur ce truc.
La vapeur. Quoi?
Qu'est-ce parce que apparemment, finalement, oui, dans le métro, il n'y en a pas vraiment, c'est pas vrai et tout. Bon, faudrait savoir.
Bah, ah, si, il y en a dans le métro.
Dans le métro, mais c'est pas possible.
J'ai même vu une photo d'un mec qui, le soir, quand il n'y a plus de métro, et avec son jet comme ça, son spray pour.
En revanche, j'habite à Montreuil, je me rends pas compte comment c'est à Paris, mais à Montreuil, il y a plein de matelas dans la rue. Ah les bon gens, ils ont jeté leurs matelas. Ouais,
ouais, ça tèche des matelas.
Ouais, ça jette des matelas direct. Ouais,
c'est
bon,
c'est toi qui ramènes les punaises de lit là?
Peut-être.
Bah ouais,
maintenant, je suis à vélo.
Ah oui, c'est vrai.
Moi aussi.
Bon, on parle de ciné ou pas?
Allez.
Très bien, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. Si, si, alors j'aimerais ajouter quand même quelque chose. Alors, l'info est nulle, mais bon. Il y a un film que je voulais voir sur Netflix, réalisé par Bayona, qui vient de sortir. Bayona, c'est le mec qui a fait Jurassic World, etc. Plein de films. Il a fait des films d'horreur aussi avant. Et il y avait déjà eu un film qui s'appelait peut-être Les Survivants, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, cette fameuse histoire dans les Andes,
oui,
la cordillère des Andes.
Oui, exactement. Ouais.
L'avion qui s'est écrasé, puis après, ils ont mangé leurs potes. Je crois que c'est des rugbyman ou un truc comme ça. Bref.
Les Survivants, exactement.
Et en fait, Bayona a fait un nouveau film de cette histoire qui est sur Netflix, qui était censé sortir il y a 3 semaines. Mais à chaque fois que je vais sur Netflix, il y a marqué 0 minute et impossible de lire le film. Donc, est-ce que c'est juste mon Netflix ou est-ce que vous, qui nous écoutez, vous arrivez à voir ce film? C'est la petite info de l'actu ciné. Oh bah, ça marche pas chez moi, voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
D'accord.
Donc voilà, ça se termine là. Très bien, maintenant on va enchaîner sur les 3 films qu'on a choisis.
Ouais.
Et les 3 titres également. L'autre, il a fallu. Ça va ronfler.
C'est lui qui va ronfler.
Je vous propose de commencer.
Allez, ça part.
Si ça vous gêne pas.
Si ça vous gêne pas,
ça me gêne pas.
Oh, ça m'emmerde un peu, mais bon.
Bon, bah alors commence. C'est le mec qui a aucune personnalité. Bon, bah commence. Non, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de Cyprien, le susnommé.
Le youtubeur, tu veux dire?
Bah oui.
Ah, d'accord.
J'ai eu très peur quand ça a commencé par le sus.
Oui, non, c'est pas Cyprien, le suceur.
Un message
de Cyprien,
Cyprien le gros suceur. J'étais à quoi?
J'étais sûr que t'allais penser à
mais
ça.
C'est sûr.
Quand j'ai dit le sus nommé, je me suis dit...
Cyprien, le sus nommé. J'étais à quoi le suceur? Trop bizarre. Trop pas sympa. Cyprien, on t'aime bien en plus. Qu'est-ce qu'il y a?
On a décidé qu'on était cash dans ce podcast.
Oui.
C'est podcash.
Oui. Oh là là.
Allez, allez, bon. Le... Pas la garder,
et pourquoi pas appeler ça le podcast, hein? Ouh, ça te ferait plaisir, Aurélien?
Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien.
Bah non.
Bah non.
On va pas faire ça. Oui, donc,
nommé.
Adrien, Cyprien, le susnommé, m'envoie un message il y a quelques jours. Et ce message dit « As-tu déjà vu ce film ?» Ce message s'accompagne d'une affiche sur laquelle on peut voir Chevy Chase, John Candy, Demi Moore et Dan Aykroyd. Que des acteurs que j'adore.
Ah ouais.
De plus, je m'aperçois que ce film est sorti en 1991, des années qu'on adore. Et là, je me dis, comment j'ai pu passer à côté de ce film? Il accompagne cette affiche et ce message de « Il faut que je vienne voir ce film, il faut que j'en parle ». Donc là, ma curiosité est piquée. Je loue ce film pour 2,99€ quelques jours plus tard. Et je me lance dans ce film qui s'appelle...
Tu te lances?
Nothing... Faut que je me lance. Dans ce film qui s'appelle « Nothing but Trouble ». Tribunal fantôme en français. Et ce film est vraiment, vraiment particulier. Je vais vous en parler. Voici le synopsis. C'est l'histoire d'un type interprété à l'écran par Chevy Chase, un riche banquier qui vit dans un appartement cossu de New York et qui, comme ça, au début du film, rentre chez lui et tombe dans l'ascenseur sur une magnifique femme interprétée par Demi Moore, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il commence un peu à se draguer vite fait dans l'ascenseur et ce soir-là, Chevy Chase organise une soirée. Il lui dit « Bah écoute, si tu sais pas quoi faire, viens à la soirée. » Et puis voilà, ce sera l'occasion de discuter. Finalement, elle va à la soirée, les deux discutent et durant la discussion, elle lui dit « Demain, je dois aller à Atlanta pour le boulot. » Et lui, comme il est un peu séduit par cette meuf, il lui dit « Bah écoute, si tu veux, je t'accompagne. » Alors qu'il a rien à faire à Atlanta. Finalement, il accompagne Demi Moore à Atlanta et on les suit comme ça dans sa belle BMW. Et il passe par plein de petites villes américaines. Et à un moment, il passe par une ville qui est assez inquiétante. Une ville de redneck. Redneck, ça veut dire les beaufs, quoi, en français. Mais vraiment, tu sais, genre, ambiance Texas, alors que Atlanta c'est dans le nord, c'est ça, mais tu sais, un peu cette ambiance-là de redneck, etc. Des motards un peu menaçants, une ville en décrépitude, etc. Ils passent au ralenti dans cette ville et tout le monde les regarde mal. Ils sont un peu flippés, etc. Bon, bref, ils sortent de la ville et là, ils accélèrent un peu pour sortir de cette ville. Ils accélèrent si bien qu'ils dépassent la limite de vitesse. Là, une voiture de police arrive. Le policier, c'est John Candy. On l'adore. Il s'arrête après une course-poursuite parce que Chevy Chase voulait pas s'arrêter. Et là, il s'arrête et John Candy lui dit « Écoutez, vous avez réuni quand même pas mal d'infractions. Vous allez me suivre. Vous allez être jugé maintenant. » Chevy Chase lui fait « Mais attendez, comment ça, je vais être jugé maintenant ? C'est trop bizarre. » Mais Chevy Chase et Demi Moore suivent John Candy et sa voiture de police. Et c'est là que le film débute et c'est là que le film devient vraiment particulier. C'est-à-dire qu'ils entrent comme ça dans une sorte d'immense décharge publique avec plein de voitures entassées les unes sur les autres, une maison à la famille Adams un petit peu et tout. Et là, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Ils entrent dans la maison et là, il y a une sorte de juge. La maison est dégueulasse. Et il y a une sorte de juge vraiment dégueu, complètement grimé, qui est joué par Dan Aykroyd, qui commence à les juger et à leur dire « Pour ce que vous avez fait, c'est très grave, c'est la prison, etc. » Bon, bref. Et là, il tombe dans une sorte de trappe avec des ossements, etc. Et là, le film prend une autre tournure. Et c'est assez étrange parce qu'on se dit « Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» C'est un film comique, mais en même temps, ça devient une sorte de film d'horreur. On a l'impression de regarder Massacre à la tronçonneuse, quoi. Et c'est là que le film est vraiment hybride et particulier et vraiment singulier. C'est que durant tout le film, on ne sait pas si on est en train de voir un truc où on doit se taper des barres ou si on doit avoir peur. Mais les deux s'embriquent vraiment bien, quoi. Et donc il se passe plein de choses après. Bon, là j'ai pas envie de vous spoil parce que ça c'est le début du film, mais ils se retrouvent bloqués comme ça dans cette décharge pendant tout le film et ils savent pas comment en sortir, et les choses deviennent de plus en plus inquiétantes en fait, parce qu'il y a des rires mais il y a aussi des vrais gens qui meurent, etc. Il y a des trucs où on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe. Et quand on voit ce film, on a l'impression que c'est une sorte vraiment de mix, comme je vous ai dit, entre Massacre à tronçonneuse et un peu, il y a un peu une vibe Abbott et Costello contre Frankenstein, etc. Ce genre d'humour-là, etc. Film fantastique, mais en même temps comédie d'horreur, etc. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que de A à Z, le film, c'est n'importe quoi, en fait. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que Dan Aykroyd, il a écrit ça, il a réalisé ça, et il s'est dit, je vais écrire un truc... Enfin, on pourrait croire que ça n'a pas de sens, mais il y a quand même du sens. Mais tout, on dirait que toutes les idées qui lui est passées par la tête, il s'est dit, ok, c'est là, je la garde, et on met tout, quoi, tu vois. Et ce qui fait que ça en fait un film vraiment... hybride, comme je l'ai dit, et moi j'ai adoré. C'est-à-dire que Cyprien m'avait envoyé un message en me disant ouais, il faut que j'en parle, lui il a détesté, tu vois, mais moi j'ai trouvé ça trop bien en fait, j'ai trouvé ce film trop cool. Et voilà, et après du coup je me suis renseigné sur le film, je vous dis pas la suite, etc., mais vous verrez, c'est vraiment, c'est un peu cartoonesque aussi, enfin c'est vraiment particulier. Et en fait je me suis renseigné sur ce film et l'histoire du film est assez cool. En gros, Dan Aykroyd est très pote avec un producteur qui s'appelle Vice, et Vice est le producteur de Police Squad ou encore The Naked Gun ou même la série Code Lisa, enfin plein de trucs, les Blues Brothers, etc. Il a produit plein de films comme ça, et en gros il avait une sorte de blessure à la hanche qui fait qu'il pouvait pas rigoler, le producteur, et il devait aller au ciné un soir, c'était dans les années 80, et ils se sont dit bon allez, tu sais quoi, on va aller voir Hellraiser, c'était le premier qui venait de sortir, comme ça je sais que je peux me taper des barres et je pourrais avoir les hanches tranquilles. Et donc ils vont voir le film, et en fait comme le film est un peu, tu vois, Hellraiser, il peut y avoir des trucs un peu marrants dedans, même si c'est un film d'horreur sérieux, tout le public rigolait, puis là ils commençaient un peu à rigoler, et là ils se sont dit pendant le film, en fait une comédie d'horreur ça a jamais été vraiment fait, enfin ça a été fait avant mais pas trop, et ce serait bien d'en faire une. Quelques mois plus tard, Dan Aykroyd est dans un petit patelin américain, il dépasse la vitesse, la limite de, enfin l'imitation de vitesse, et là un flic l'arrête et lui dit vous allez être jugé maintenant, et c'est, en fait c'est de là que vient l'idée du film. Et bien, en fait tout s'est embriqué comme ça et tout. Le film a été un flop monstrueux au box-office, il a perdu de l'argent, le tournage était infernal parce que Chevy Chase était horrible, on connaît la réputation de Chevy Chase, il était horrible sur le tournage, et donc voilà, et c'est un film, j'avais jamais entendu parler de ce film, alors que comme on s'est dit, 91, John Candy, Chevy Chase, un acteur qu'on adore.
Ouais.
Et c'est un film qui est passé à la trappe parce que, film qui a floppé. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont folles dans ce film, dont, et j'en parlais tout à l'heure à Aurélien sur WhatsApp, la toute première apparition de Tupac Shakur à l'écran, en fait.
C'est fou, ça.
C'est son tout premier film. À un moment donné, on voit Tupac.
Avec Shock J, en plus, époque Digital Underground.
Exactement, il y a plein de rappeurs comme ça qui viennent dans le film, à un moment. C'est le tout premier film de Demi Moore après Ghost. Donc, après le succès de Ghost, elle enchaîne sur Nothing But Trouble. Donc, voilà, il y a plein de raisons comme ça de voir ce film que j'ai trouvé super. Et si je devais donner une note à ce film,
ah ouais,
bah ce serait un, un 6,5, mais un très bon 6,5. Vous voyez ce 6,5 là, en fait, c'est pas un 6,5 de ouais bof, c'est un 6,5 vraiment
de kiff.
Ouais, de kiff, de plaisir coupable, etc. Voilà, Chiviches a dit qu'il regrettait ce film parce qu'il le trouve à chier. Mais moi, je le trouve trop bien. Et puis voilà, quoi, en gros. Donc,
très bien.
Il est trouvable pour 2,99€, je crois. Je sais plus sur quelle plateforme. Et donc voilà, j'ai adoré Nothing But Trouble, Tribunal Fantôme en français. Et pour le son, j'ai décidé de vous faire écouter un artiste que j'écoute beaucoup ces derniers mois qui s'appelle Tyler Burkhart. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment, j'ai découvert il y a un ou deux ans et en fait, je me rends compte que j'écoute toutes ses chansons. Je trouve ça trop bien. Et cette semaine, il a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Summer's Tale. Donc voici le morceau que j'ai choisi. Très bien, on va enchaîner avec Guillaume. Guillaume, quel est ton film ?
Alors, moi, qu'est-ce que c'est mon film, bien sûr ? Figurez-vous que je me suis rendu compte que j'en avais vu pas mal, il y en a plein qui me manquaient. Du coup, j'ai vu un truc qui va faire plaisir à Aurélien, puisque j'ai vu un film de Hitchcock.
Ah !
Ça fait plaisir aussi à JB. Voilà. c'est un film qui est méga connu, surtout, de Hitchcock, mais que j'avais jamais vu. Ah. L'homme qui en savait trop.
Ah !
Quelle version ?
À la version de 1956. Effectivement, je voulais le souligner, parce qu'il y a eu deux versions. Une version américaine, une version anglaise. J'ai vu la version américaine, la version donc avec James Stewart et Doris Day.
Tout à fait.
Et Daniel Gélin.
C'est vrai.
Daniel Gélin.
Ouais, c'est vrai.
Quand même incroyable.
Ouais.
Daniel Gélin qui est dans un Hitchcock.
Parce que ça se passe.
Ça commence au Maroc.
Marrakech, ouais. Ça,
ça commence à Marrakech. Donc l'histoire, c'est un couple avec un enfant. Le monsieur est médecin, la femme est chanteuse. Ils sont dans un bus à un moment. Et le fils, il chahute un peu dans le bus. Et sans faire exprès, il enlève le voile d'une femme voilée. Là, le mari de la femme voilée s'énerve, il va pour parler au couple, et finalement il y a un Marocain qui intervient, quelqu'un qui parle marocain, et qui lui dit laissez-les, c'est pas grave, etc. Il règle l'affaire, du coup il rentre en contact avec le couple. Il dit oh, il est vraiment gentil ce mec et tout, donc il commence à parler, et ils se disent on se voit ce soir, je viens à votre hôtel, on boit un coup et tout avec plaisir. Finalement il se voit, et finalement il vient dans la chambre, puis d'un seul coup il est là, il est un peu bizarre. Puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte et en fait il y a une sorte de truc qui se met en place où ils sont là, mais ils arrivent à l'hôtel, il y a un couple qui arrête pas de les regarder. Il fait mais pourquoi le couple là-bas ils arrêtent pas de regarder? Ouais, je sais pas. Et tu sais, James Stewart il est tout le temps en train de dire mais non mais t'inquiète c'est rien, c'est juste, je sais pas, ils t'ont peut-être reconnu, peut-être que voilà, je sais pas. Finalement le soir arrive, le mec qu'ils avaient rencontré il dit ah je peux pas rester, j'ai un truc à faire. Donc ils vont au resto, ils se rendent compte que il y a le couple qui les arrêtait pas de les regarder. Ils sont encore là, ils n'arrêtent pas de nous regarder. Finalement le couple n'arrête pas de les regarder, ils disent ah mais ouais on vous regarde parce que je sais plus quoi, j'adore tes cheveux, voilà c'est tout machin, c'est vraiment qu'on n'a pas l'habitude de croiser des gens comme ça ici et tout. Et ils commencent à parler tous les quatre, et là le mec qu'ils avaient rencontré dans le bus, finalement il est au resto avec une autre meuf. Ils disent mais attends, mais c'est trop bizarre cette histoire, pourquoi il est là, il nous avait dit qu'il pouvait pas et tout. Finalement,
déjà il y a des bases mystérieuses à la Hitchcock dès le début.
Ouais. Dès le début il y a des bases mystérieuses à la Hitchcock, et surtout ça commence. Alors le premier plan du film c'est pas du tout à Marrakech, c'est un orchestre et donc qui joue, et à la fin il y a un coup de cymbale, et sur le coup de cymbale il y a écrit parfois c'est un coup de cymbale qui va changer la vie d'un homme, un truc comme ça. Donc on se dit ok, bizarre, énigmatique. Tac, finalement ça part à Marrakech. Et finalement, en gros, on se rend compte que donc le lendemain ils sont au souk, ils sont avec le couple, ils se sont fait amis avec le couple parce que finalement ils s'en méfient pas. Là arrive un voleur qui se met à courir et les flics le poursuivent, etc. Le voleur finalement il se prend un couteau dans le dos, il meurt devant la foule, et avant de mourir il dit à James Stewart de venir. Finalement c'était le fameux Daniel Gélin qu'ils ont rencontré dans le bus qui lui dit à l'oreille et voilà, il va se passer quelque chose à Londres, il faut que vous alliez là-bas, il va y avoir un crime contre une personne très connue là-bas, il faut absolument que vous interveniez, il faut que vous parliez à Ambrose Chappell. Bon, après, je vous laisse découvrir le film, et à partir de là, une sorte de toile d'araignée qui se fixe autour des deux personnages. Voilà, vous découvrirez la suite si vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que Hitchcock, c'est relou de spoiler.
Ah bah grave.
Et en fait, difficile de dire que, tu sais, c'est tellement, tout est maîtrisé, notamment une scène qui culte à savoir la scène. C'est difficile de le dire sans spoiler. Sans spoiler, si vous l'avez pas vu, vous pouvez passer ce passage, parce que sinon, faut qu'on en parle. On peut en parler ou pas?
C'est quoi?
Oui, la chance que je veux dire.
Moi, je l'ai vu une fois quand j'étais au collège, ce film.
En fait, c'est le rapport. Non, mais ce qu'on peut dire,
donc,
c'est
je m'en rappelle pas, donc je sais pas si j'ai envie d'être spoil.
Mais le rapport à la musique dans le film, il est incroyable.
Ouais.
Voilà, parce qu'il y a une scène notamment où
elle chante en bas.
Il y a une scène notamment, voilà, il y a ça.
Au piano.
Et il y a aussi une scène au Albert Hall à Londres, avec qui est filmée en orchestre, qui est filmée en plan fixe d'orchestre, qui dure 10 minutes, où en fait il y a un suspense qui monte, parce que vous comprendrez pourquoi. C'est la maestria, quoi.
Ouais,
la maestria. C'est genre, plus ça va, plus tu dis. Ah, et en fait, en gros, il fait monter le suspense sur une partition qui se lit. Rapport au fameux coup de cymbale, etc. Bon, bref, vous regarderez, c'est grandiose, c'est brillant, et franchement, il y a un truc quand même où avec Hitchcock, à chaque fois, tu dis, tu sais, c'est en 1955. Ouais. Bon, alors, il y a des trucs qu'on vieillit parce que c'est tu vois, s'il se prend un coup de massue sur la tête, il lève les yeux au ciel et il tombe, quoi. Mais sinon, tout le reste est là, la rythmique, le truc. Ça me faisait penser, quand je regardais le truc, je me disais, ça me pensait à une interview de Jean Gabin que j'adore où il dit, de toute façon, il y a trois choses pour faire un bon film, c'est une bonne histoire et une bonne histoire. Qui compte, tu vois. Et en vrai, quand c'est tu vrai. Regardes ça, tu te dis, en vrai, ouais. En vrai, l'histoire.
Bien la mettre en scène aussi.
Ouais, mais l'histoire, elle est incroyable. Et c'est tellement bien ficelé, c'est tellement cool. Et c'est justement ce que je me disais à la fin du film. C'est que, tu sais, ça fait partie de ces films où, par exemple, y a plein de films comme ça, je sais pas comment expliquer, où en gros, le plot, il est incroyable. Ça monte, ça. Et finalement, une fois que c'est réglé, limite, c'est genre. La famille, elle est réunie, il fait voilà, c'est réglé.
Allez,
c'est terminé, tu vois ce que je veux dire?
Bisous.
Parfois, ça se termine comme ça. C'est genre, voilà, c'est cool. Tu sais, c'est souvent des films avec Bruce Willis où il est en sang, sa femme est dans un camion de pompiers, puis t'as juste le flic qui lui dit, ouais, c'était cool, mec.
Et ils font une blague.
Voilà, ils font une blague. Et puis
t'as pas du feu?
Ouais.
Allez, salut.
Et là, il y a une grue zoom arrière. Et puis,
ouais, voilà, tu vois. Mais en gros, j'ai adoré. Et d'ailleurs, ma compagne, elle a un livre des entretiens de Truffaut et Hitchcock.
Ouais, trop bien,
bien sûr. Qui est trop bien. Donc je lisais les entretiens à propos de ce truc. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est méga passionnant ce qu'il raconte. Et après, je peux pas trop en parler sans spoiler.
Je crois que Hitchcock Truffaut, les entretiens, ça existe aussi en audio, je crois.
Ouais, et ils ont fait un docu il y a pas très longtemps aussi.
Ouais,
enfin, pas très longtemps. Je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Je crois qu'il date de 2015. C'est bientôt 10 ans en fait. Mais
ça m'a donné envie de voir le premier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent la première version, c'est toujours Hitchcock, mais ils disaient d'ailleurs Hitchcock dans lequel il fait jouer le mec qui joue dans M le Maudit.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, c'est comment il s'appelle?
Peter Lorre.
Hein?
Peter Lorre?
Ouais, si, je crois que c'est ça.
C'est ça, Peter Lorre. Je suis nul en nom d'acteur, mais je crois que c'est ça.
Et Truffaut, il lui dit le premier, on dirait que c'est un apprenti en cinéma qui est méga doué. Et le deuxième, on voit que c'est un professionnel du cinéma qui l'a fait, parce que c'est la même chose, mais vous avez réglé toutes les erreurs, etc. Tu vois.
Là, récemment, j'ai vu. Le dernier film que j'ai vu Hitchcock, et que j'avais jamais vu d'ailleurs, c'était il y a 2 ans, je crois, The Rope.
Ouais, The Rope.
La corde, qui est extraordinaire, qui est un film. Bon, il a triché évidemment, mais un film pratiquement filmé qu'en plan séquence.
C'est que du théâtre, quoi.
Ouais.
C'est que dans un appart,
ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La caméra ne s'arrête jamais, quoi.
Ouais.
Et en fait, j'avais vu récemment une vidéo où ça listait toutes les folies de mise en scène comme ça qu'avait.
C'est vrai qu'il en avait.
Qu'avait fait Hitchcock, et ça commençait par justement la scène où le type tombe des escaliers dans Psycho, etc. Il y a une façon de le filmer et tout, et en fait, c'est incroyable de se rendre compte à quel point ce type a inventé des façons de filmer avant tout le monde, et qui sont encore présentes aujourd'hui et qui existent et qui sont pas ringardes, quoi.
Moi, ça m'a fait ça il y a pas longtemps. Pareil, un film que j'avais jamais vu, L'Inconnu du Nord Express. Je pensais pas qu'il était si vieux, je crois que c'est années 30 ou début 40. Et à la fin, il y a un match de tennis. C'est un peu pareil que l'orchestre, là. Ce moment où il arrive à coller, en fait, là, pour le coup, l'espèce de côté thriller du match, tu vois, où t'es un peu en train de te demander ce qui va se passer dans le match, et en même temps il y a autre chose qui se joue, et donc en fait il colle l'action du match de tennis avec l'action de ce qui se passe dans le film. C'est assez incroyable. Et un truc qui m'avait marqué aussi, c'était genre
donc tu penses que ça pourrait être une inspi pour Woody Allen dans Match Point?
Je pense, ouais. En tout cas, le découpage était hyper novateur pour l'époque, et un peu comme là sur la musique dans ce film, j'étais assez marqué de voir comment il arrivait à découper l'action du sport et de le rendre vachement intéressant, alors qu'on était dans les années 30-40, je ne me rappelle plus très bien de la date. Et ce qui m'avait marqué par contre dans ce film aussi, c'était le côté macabre du pitch de départ. Parce que c'est un mec qui prend le train et qui est un peu emmerdé par sa femme, et il en parle à un mec qu'il ne connaît pas, un connu du Nord Express. Et il lui dit vas-y, pas de problème, moi, si tu veux, je la bute, ta femme. Puis en rigolant, il faut tu sais, il est un peu bourré, il faut moi, je sais pas, on en reparle. Et après, le mec, il l'appelle le lendemain, il fait je suis en bas de chez toi, je vais la buter. Il fait non, en fait, c'est quoi ce délire?
Ah, mais tu
et
vois, c'est ça.
Film, il essaye de régler le fait qu'il a pas envie que ça.
C'est ça qui est trop bien.
Mais c'est toujours des bonnes. T'en parlais justement avec l'interview de Gabin. Hitchcock, c'est toujours des bonnes histoires. Et il y avait pas mal de livres à l'époque. Moi, j'en ai plein dans ma maison de campagne. Histoire d'Hitchcock à lire. Lumière éteinte.
Histoire macabre et tout.
Mais c'est là c'est là ce qui est fou, c'est quand même ce truc, c'est que dire. En fait, lui, donc, il a l'idée de la mise en scène, le scénario, comment il le ficelle, etc. Toutes ces histoires, tous ces plots, etc. Et aussi, je pensais à ça quand je revoyais. Je me disais, bon, James Stewart, tu vois, cette façon de le mettre. En fait, tu dis, tu l'as vu dans. Enfin, il est pas dans tous les films d'Hitchcock, mais il est dans la majorité quand même, à chaque fois.
Les plus grands,
quoi. En général, on pense à James Stewart et à Cary Grant. Même si Cary Grant, il y en a moins quand même.
Cary Grant, il y en a deux, trois. Il y a surtout Notorious et La mort aux trousses. C'est vraiment des gros, gros films. Mais et La main au collet aussi.
James Stewart, c'est quand même ce truc où à chaque fois, ça fait partie de ces acteurs où je me dis, tiens, si sur l'affiche, je vais regarder quoi.
Ouais.
Et la dernière fois, j'ai regardé Anatomie d'un meurtre.
Ouais. Trop bien ce film aussi.
Hyper bien.
J'ai découvert tard aussi, moi.
Et quel acteur, James Stewart.
Et je repensais à justement un truc qui n'est pas un film, mais une interview que tu m'avais montré de lui où il parle de son chien.
Extraordinaire.
Ah ouais, ouais.
Et ça, c'est un truc où à chaque fois, déjà, si tu l'aimes ce gars, tu te dis ok, et tu regardes l'interview, tu fais bon, allez, je veux que tu.
Pour
je
y a tous les capras et tout, c'est fou.
Pour restituer, c'est une interview de James Stewart dans le Johnny Carson à l'époque, où on peut y voir James Stewart en train de réciter un poème pour son chien qui, dans mes souvenirs, s'appelle Beau.
Beau, ouais, exactement.
Et il se met à pleurer un petit peu à un moment donné.
Ouais, il dit qu'il l'aime trop et tout.
C'est émouvant, c'est incroyablement émouvant.
Et il y a un truc de. Je sais pas, alors. Je connais vraiment pas bien sa vie. Mais une sorte d'élégance, de droiture chez ce mec que j'adore en fait.
C'est d'autres époques quand même.
D'ailleurs, il y a.
C'est d'autres mecs. Hein. C'est pas,
j'avais créé un compte Insta qui s'appelle Actors with Cats and Dogs.
Ah oui, c'est
juste
vrai,
des photos. Faut j'en mette. En fait, je mettais des acteurs avec des chiens et des chats. Et la photo de profil de ce compte, c'est justement James Stewart ou Johnny Carson qui parle de Beau. Voilà. Mais alors, combien sur 10 ce film?
C'est difficile de mettre une mauvaise note. Hein.
Bah, tu m'étonnes.
Hitchcock. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un navet d'Hitchcock?
Il y a des
moins bons.
Ouais. En fait, au début. Quand il bossait en studio, il avait des films de commande en Angleterre où des fois c'était pas vraiment du Hitchcock. Enfin, il y avait une partie Hitchcock, mais il y avait des grands films que moi j'ai vus en me disant genre bon bah je reconnais pas la patte d'Hitchcock. Après, c'est jamais des mauvais films, mais c'est pas c'est pas terrible.
Combien, Guillaume?
Bah 9, non?
9, très belle note.
Vous diriez quoi, vous?
Bah pareil.
Ouais, pareil.
Vous avez un Hitchcock préféré, vous?
Bah moi j'avais été quand même assez impressionné par The Hope là récemment parce que c'était le dernier que j'avais vu. Mais de tout, franchement, il doit manquer 3-4 je pense d'Hitchcock. Mais de tous ceux que j'ai vus, j'hésiterais entre quand même Fenêtre sur cour et Vertigo.
Ouais, Fenêtre sur cour.
Mais Fenêtre sur cour, c'est le premier Hitchcock que j'ai vu quand j'étais ado. Je l'avais vu à la cinémathèque du Quartier Latin et j'avais été vraiment impressionné par ce film.
Mais Fenêtre sur cour, c'est impressionnant et je pense que c'est aussi parce que c'est une histoire où on peut s'identifier quoi.
Ouais.
Parce que regarder chez les voisins, c'est un truc de base quoi.
Et c'est terriblement moderne aussi. D'ailleurs, il y avait eu un remake de ce film que j'avais adoré, qui est forcément moins bien que l'original, mais qui s'appelle Paranoïaque avec Shia LaBeouf, et qui est un super film. J'avais adoré ce film. Très années 2000 dans l'ambiance.
Mais aussi dans Fenêtre sur cour, ce que j'aime, c'est que bon, tu vois très bien que c'est du studio, mais t'as envie d'y vivre dans leurs petits appartements là, tu sais.
Ambiance Technicolor, les lumières et tout.
La part de la danseuse là.
Ouais, tu vois.
T'as Hitchcock qui prend un petit disque et tout là.
En fait, il y a presque un truc rassurant de regarder au début chez les voisins.
C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as choisi comme son?
Alors c'est bizarre parce que je sais pas si ça vous fait ça parfois. Il y a des chansons que vous avez entendues plus jeune à la radio, puis d'un seul coup, et d'un seul coup dans votre vie, elles retombent dans vos oreilles et tu dis putain mais j'adore ces chansons quoi. Et en ce moment je suis obsédé par une chanson qui est connue, mais je suis obsédé par cette chanson. Chris Rea, Joséphine. Vous voyez cette chanson? Vous connaissez pas cette chanson? Quand vous allez l'écouter, vous allez dire ah mais ouais d'accord. Et en fait
ah non rien à voir, je pensais à Oser Joséphine.
Non, ça c'est alors
ouais.
Non mais Chris Rea Joséphine, et je sais pas, j'arrête pas de l'écouter, j'aime trop cette chanson. Il y a une ambiance comment on pourrait dire, je sais pas, je pense que le sample il a été utilisé 50 000 fois, mais voilà, mais Chris Rea Joséphine avec plaisir avec ça. I take for you.
Très bien, Aurélien, ton film, on termine avec toi.
Eh bien, j'ai une question pour vous d'abord. Est-ce que vous aimez les comédies romantiques?
Bah les comédies sûr. Ou les comédies?
Les comédies. Les comédies romantiques. Les rom-coms. Je trouve que c'est
moi,
sous-coûté.
C'est sous-coûté, allez.
Les rom-coms, tout à fait.
D'ailleurs, sous-coûté, ça vous a plu parce que c'est souvent revenu dans les DM et dans les,
tu vois,
les réponses Twitter.
Blague. Sous-coûté. Je crois que l'épisode dernier a beaucoup fait rire les auditeurs. Voilà, je balance une petite.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai eu des retours aussi.
Ils ont bien aimé.
Voilà, bah, c'est cool.
Mais d'ailleurs, globalement, on est quand même très content de revenir.
Ouais, c'est vrai. Il faut le dire. C'est magnifique.
Et merci à vous
d'écouter.
C'est
un bonheur total.
Et là, on peut écouter ce qu'on fait.
Et là, on peut un peu teaser. J'ai hâte de recevoir le prochain invité qui est très très cool et qu'on adore.
Ah oui, c'est vrai.
Donc on va se régaler.
Il a fait quelques comédies romantiques, on peut le dire.
Il a fait des. C'est un acteur. Ce sera le prochain invité. On vous tease un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice? C'est un acteur qui a joué dans des comédies romantiques, du coup, dans des films comiques. Des films comiques qu'on cartonnait en France aussi.
Ouais. Et des films dramatiques aussi.
Et des films dramatiques, il a tout fait. On a hâte de le recevoir.
Sur un panel assez long.
Voilà, ça vous tease.
En fait, hein.
C'est juste pour le teaser un petit peu.
Et j'aime beaucoup son choix aussi.
Oui, parce qu'il faut savoir que sont les invités qui choisissent le film à chaque fois. Enfin, il me donne 5 films, j'en choisis un. Et il a choisi un film des années 80. Voilà, c'est l'autre indice que je peux vous donner.
Alors, en parlant de choix de films, d'ailleurs, j'ai reçu un DM de quelqu'un qui disait « Oh les gars, parlez plus souvent de films que vous aimez pas, ça nous régale et tout. »
C'est là.
Non, mais ça, c'est pas fait exprès, ça. Pardon.
Oui, alors d'ailleurs, et je tiens à dire quand même une chose, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube ciné qui ont fait leur beurre sur les critiques de films. Ils savaient très bien qu'en chiant sur les films en permanence, ça ferait des vues. C'est pas trop l'ADN de TFTC.
Non, pas du tout. Mais ouais. C'est juste, bon, c'est vrai que le cinquième élément on n'aimait pas, mais c'est juste que bon, c'est pas notre faute.
Ah oui, non, mais.
C'est
mais,
rapport à ça. C'est
mais par contre, on va pas en parler en étant condescendant. Je pense
pas
qu'on a été condescendant, je pense.
Non. On a dit que c'était ringard, bon, c'est pas non plus. Voilà.
Parce que être condescendant pour parler de ciné, c'est une fâcheuse habitude dans le YouTube ciné français.
Bah, à mon avis, être condescendant en parlant de ciné, si t'es réalisateur, quoi. Si t'es Scorsese, en fait.
Bah, si t'es, ouais.
Bien sûr.
Si Hitchcock, il serait.
Mais le problème de ces gars, c'est qu'ils sont condescendants
en étant vendeur chez Micromania.
Toi, tu penses à quelqu'un, là, ou quoi?
Non, pas spécialement.
Si, j'ai l'impression.
Non, j'ai rien dit.
Très bien, Aurélien. Attends, juste entre parenthèses.
Est-ce que vous aimez les comédies romantiques?
Non, mais juste entre parenthèses, avec Guillaume, parfois on s'envoie des DM et on se dit qu'un de nos rêves serait de créer un podcast où on pourrait juste chier sur les gens qu'on n'aime pas.
Ouais, parce que bon, il y a des gens qu'on n'aime pas trop. Mais après, ils nous ont rien
le
fait.
Le pot de chiasse.
Le pot de chiasse, bien joué ça.
Oh eh,
c'est bon ça comme titre, le pot de chiasse.
Après le podcast, le pot de chiasse.
Dites-nous sur Twitter si vous diriez un épisode du pot de chiasse.
Ah, mais ils adoreraient avoir le pot de chiasse.
C'est affreux. Les ragots, on vous raconte les ragots.
Voulez, viens,
on raconte l'envers du décor et les ragots.
Des insides, parce qu'il y a beaucoup d'insides.
Ah, il y a des insides salés.
Ah, c'est très salé, on a beaucoup d'histoires. Malheureusement, on ne peut pas les raconter, mais en tout cas.
Ça serait un...
Le pot de chasse, c'est un rêve. On se le fait tous les deux par note vocale avec Guillaume, parfois, en DM.
Bon, allez, Aurélien. Fantôme. Oui, alors, bien sûr. Est-ce que vous aimez les romédies
Les romédies.
Les
romédies romantiques, j'adore.
Ouais, j'adore.
Non, en fait, c'est que.
Ça met grave dans un bon mood.
Ça a commencé dans un concept où je me suis dit, en vrai, on regarde tous énormément de comédies romantiques. On est toujours en train d'en consommer, d'en regarder, d'en kiffer et de dire que c'est bien, mais c'est jamais les premiers films qui nous viennent quand on parle de cinéma. On dit jamais genre telle comédie romantique, waouh, c'est mon film préféré, c'est le film de l'année.
Bah écoute, je sais pas trop quand même parce que très souvent, je pense à Eternal Sunshine comme un de mes films préférés. C'est une comédie romantique en vrai.
Ouais, c'est pas que une comédie romantique.
Oui, mais ça l'est aussi.
Ça quoi, c'est vrai. Ça c'est vrai.
Quand Harry rencontre Sally, j'y pense très souvent aussi.
Moi aussi.
Ou, mais vous tu avez vois. Un message.
C'est ouais. Mais justement
très souvent avec Tom Hanks d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Comment ça s'appelle
Nuit blanche à Seattle.
Bah, je l'ai revu il y a pas longtemps et ben bah, je me suis régalé. Bah,
ouais,
oui, mais ça met pas dans un bon mood ce film.
Mais si.
Bien sûr. Moi j'ai revu Vous avez un message et ce film ça te met dans une ambiance.
Ouais, pareil. Moi j'ai vu les trois à la suite. Meg Ryan style. Mais justement, je voulais parler un peu de l'origine de tous ces films, l'origine moderne des comédies romantiques.
Excuse-moi Aurélien, ce que veulent les femmes, je suis obligé d'en parler. Voilà.
Oui, bien sûr. Mel Gibson, on sait. On
sublime.
Mais
oui, d'ailleurs, tu m'as fait passer. C'était relou parce que pendant le podcast. Je suis désolé Aurélien, mais pendant le podcast avec Toledano et Nakash, t'étais là genre. Eh, tu l'adores, Mel Gibson. Tu aimes trop. Et Toledano, il était là genre. Oui, enfin bon, c'est un antisémite.
C'est quand même un antisémite.
Tu l'adores, toi, JB.
Ah, JB Mel Gibson.
C'était relou ça. Oui, voilà, pardon de t'avoir dérangé Aurélien.
Oui, donc j'ai essayé de trouver un peu l'origine des comédies romantiques actuelles, c'est-à-dire celles qu'on a vues dans les années 80, 90 et 2000, qu'on a citées, celles avec Tom Hanks, Meg Ryan surtout, très souvent présente. Et je suis tombé sur un film que je voulais voir depuis longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu vous, The Goodbye Girl.
Ça me dit rien comme ça.
Goodbye Girl est un film de 1977 de Herbert Ross avec Richard Dreyfuss et Marsha Mason.
On adore Richard Dreyfuss.
Tout à fait.
Et Herbert Ross aussi d'ailleurs.
Ouais ouais, Herbert Ross est excellent. Et c'est surtout une comédie écrite par Neil Simon. Et en fait j'ai toujours une passion pour ce mec, Neil Simon, parce que bah, j'ai découvert que c'était une resta du théâtre, de la comédie et du scénario aux États-Unis. Et j'ai découvert ça vachement tard. En fait, c'est le mec qui a créé The Odd Couple, par exemple, avec Walter Matthau et Jack Lemmon.
Walter Matthau, qui est, pour ceux qui ne le remettent pas, peut-être son film le plus connu mainstream de Nina Malice, Le Moustachu.
Exactement. Oui. Et qu'on retrouve dans plein de films, souvent en second rôle ou en premier rôle, dans
très,
Charlie
très
Varick, par exemple, qui a une vraie gueule de cinéma des années 60 et 70, peu connu en France, mais très respecté aux États-Unis. Le pitch de Goodbye Girl, vous allez voir, c'est vraiment le pitch de toutes les comédies romantiques.
Quelle année déjà ?
1977.
D'accord.
En gros, Marsha Mason est une danseuse de 32-33 ans qui habite dans un appartement avec sa fille qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Lucy. En gros, tu les vois au début du film rentrer, elles sont là, elles parlent du fait qu'elles vivent avec un mec qui est acteur. Elle est danseuse, mais elle a un peu arrêté sa carrière. Et donc la petite est à l'école, etc. Et ils arrivent dans l'appartement et ils découvrent, c'est vraiment le générique, ils découvrent une lettre du fameux acteur qui annonce qu'il s'est barré et qui lui dit au revoir en disant genre à la base ils devaient aller tout ça en Californie ensemble pour aller bosser sur un film à Hollywood. Et le mec dit en fait c'était pourri le truc à Hollywood, j'ai pas voulu te le dire, je te laisse, je me casse en Italie, on m'a donné un bon plan et bah voilà, démerde-toi. Et donc ça commence en mode pleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle la Goodbye Girl. C'est qu'elle va expliquer pendant le début du film que c'est pas la première fois qu'on la laisse tomber comme ça avec sa fille. Elle a déjà divorcé donc du mari, du père de son enfant. Et elle, franchement, elle est forcément vénère que ce mec se barre comme ça, comme un goujat, du jour au lendemain, en lui laissant une lettre pourrie avec sa fille. Mais le mec a fait pire. Le lendemain, elle apprend qu'en fait, pendant qu'il part pour le tournage pendant 4 mois et qu'il l'a laissé, il a sous-loué l'appart, parce que l'appart lui appartenait. Enfin, en tout cas, il le louait à son nom. Donc, en fait, la concierge dit « Bah, faut se barrer maintenant, en fait. Y a un mec qui va venir à votre place, qui sous-loue. » Arrive Richard Dreyfuss, qui sonne à la porte et qui dit « Bah, c'est chez moi maintenant. » Et elle a dit « Bah non, j'ai refait toute la déco, le mec s'est barré, mais c'est chez moi, en fait. Je suis avec ma fille, laisse tomber. »
Donc, attends, Richard Dreyfuss, 77...
2 ans après Les Dents de la Mer.
D'accord.
Juste avant ou juste en même temps qu'il fait
Close Encounters,
okay, troisième type. On est sur ce type de Richard Dreyfuss qui commence à être une tête d'affiche du cinéma indépendant et mais qui est pas encore très d'accord, très réputé. Et donc en fait ce qu'il faut voir c'est que là l'histoire a l'air basique mais pour l'époque c'est très moderne parce que genre t'as une fille qui est danseuse qui vit seule avec son enfant de 10 ans qui est déjà divorcée. Qui est un peu dans ce milieu interlope, ça se passe à New York bien sûr, et un acteur, donc Richard Dreyfuss, qui joue aussi un acteur dans le film, et qui vient parce qu'il a un premier rôle à Broadway, enfin off Broadway, genre une pièce qui est montée de Richard III de Shakespeare, et il doit faire sa première. Et en gros, les dialogues sont extrêmement bien, forcément au début ils se détestent. Parce que lui il dit bah c'est chez moi en fait, et elle a dit bah non c'est chez moi, ils s'embrouillent et ils finissent par se mettre d'accord pour dire qu'ils vont faire une coloc, mais ils passent leur temps à s'embrouiller et à faire des trucs pourris pour qu'il y en ait un des deux qui se barre. Et au fur et à mesure bien sûr pardon, au fur et à mesure bien sûr ils vont s'aimer,
donc deux personnes qui doivent cohabiter dans un appartement, ce qui me fait un peu penser à La Garçonnière de Billy Wilder dans l'ambiance.
Ouais, un peu,
qui est aussi une comédie romantique.
Sauf que c'est pas tout à fait le même point de vue, tu vois, ouais. Parce qu'il y avait un truc où ils étaient. Et là, vraiment, tu sens tout ce qui fait la comédie, vraiment la rom-com moderne, tu vois, dans la façon dont c'est écrit, le côté un peu one punchline de Neil Simon. Le rôle de l'enfant aussi, tu vois, où finalement Richard Dreyfuss, il va se rapprocher de Marsha Mason via leur enfant, qui joue extrêmement bien et qui a l'air d'avoir 20 ans tellement enfin, ce qu'elle a écrit comme dialogue, c'est extraordinaire, tu vois, elle a l'air clairvoyante sur tout ça. Il y a un truc sur aussi les mœurs après années 60, vraiment fin 70, comment ça se voit. c'est hyper bien écrit et il y a tout dedans. C'est-à-dire comme les rom-coms après les années 80, 90 et tout, à la fois tu te marres. Il y a des moments vraiment de pure comédie, il y a des moments un peu dramatiques où il y a des choses un peu sur l'ego, sur comment on se rend compte vraiment après avoir eu un enfant à un âge. Bon là, ils ont 30 ans. Pour moi, ils sont jeunes de fou, tu vois. Mais en fait, c'est comme si eux, ils avaient 40 ans après avoir bien vécu.
Ouais.
Comment tu te retrouves à te mettre avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et franchement, le film, ça se voit que c'est un peu le blueprint de tout ce qu'il va y avoir comme comédie après. Extrêmement bien écrit. Richard Dreyfuss aura son seul Oscar de sa vie avec ce film. Et il sera.
Comédien principal. Ok.
Et il sera le premier jeune de 30 ans. Enfin, c'est la première fois qu'un jeune de 30 ans acteur a l'Oscar du premier rôle dans un film. Et il ne sera battu qu'en 2001.
Tiens, on va essayer de deviner par qui. Attends.
En 2001.
Par un plus jeune.
Ouais.
En 2001,
âge.
Guillaume.
Même âge.
Tant qu'il y a eu l'Oscar en
30 ans, moins de 30 ans.
Attends, 2001, donc c'est des films de 2000.
Ouais. 2000-2001, dans ces zones-là, je suis pas exactement sûr, mais...
Ok, tu peux donner des petits indices ?
Oui, c'est un film de guerre.
Film de guerre en 2000, attends, c'est pas la
ligne
rouge ?
Enfin, pas vraiment un film de guerre,
Non, la ligne rouge, c'est
qui se passe pendant la guerre.
La ligne rouge, c'est 99. Ah, c'est pas... Attends, Faut sauver le soldat Ryan, c'est 98.
Ouais, où il y a de la musique.
Film de guerre avec de la musique ?
Ouais, il y a de la musique.
Film qui se passe pendant la guerre.
Seconde guerre mondiale ?
Ouais.
Bah attends.
Il se passe pendant la guerre où il y a de la musique.
C'est pas Il faut sauver le soldat Ryan.
Avec un angle.
Le pianiste.
Voilà.
Ah, joli. Brody.
Adrien Brody, non, Adrien Brody, Oscar du meilleur acteur, qui est
évidemment
plus jeune.
Donc
je crois qu'il avait le même âge.
Bon, très bien.
En tout cas, il avait moins que la trentaine. Et c'est la première fois que le record était battu de Richard Dreyfuss, qui l'avait quand même depuis donc presque 20 ans.
Voilà, justement, dans le dernier tab, ce que j'avais sorti sur Chalamet. Je disais que quand il a été nommé pour Call Me By Your Name, c'était la première fois depuis 80 ans qu'un acteur était un acteur aussi jeune était nommé pour le rôle principal. Parce qu'il avait genre 22, un truc comme ça pendant Call Me By Your Name. Quoi. Et ça faisait 80 ans que c'était pas arrivé un acteur aussi jeune nommé pour...
C'est fou, tu vois. Et après, c'est surtout fou de voir que Richard Dreyfuss, malgré son énorme carrière, il a jamais eu d'autre Oscar que celui-ci.
Mais tu sais que Richard Dreyfuss, je me suis rendu compte récemment que très souvent... dans les vieux films, parfois il y a toujours des acteurs qu'on confond, tu sais. On confond un acteur avec un autre, une actrice avec une autre. Et j'ai souvent confondu Richard Dreyfuss avec Albert Brooks. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que tu sais, ils ont un physique qui peut être un peu, tu vois.
Ouais, les cheveux un peu bouclés et tout ça.
Et récemment, j'avais jamais fait le lien. Mais c'est vrai qu'Albert Brooks, parce qu'Albert Brooks, là récemment, je l'ai revu dans Curb Your Enthusiasm où il joue un rôle très comique, etc.
Ouais.
Mais Albert Brooks, il est dans Taxi Driver quand même.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il joue je crois que c'est Palatine, je crois, le mec qui doit se faire élire. Il joue un mec du cabinet Palatine, etc. Et Albert Brooks joue dans Taxi Driver. C'est assez fou, quand même, quand j'y repense.
Ouais, j'avoue. J'avais oublié cette info.
Et donc, combien tu mettrais à ce film, alors ?
En vrai, j'avais plein d'autres infos.
Ah, bah vas-y, balancé.
En gros, ce qui est fou, parce que je me suis renseigné après par le film, moi, le film, vraiment, j'ai adoré. Je trouvais ça exceptionnel. Et je vois bien, en fait, la filiation. En fait, c'est bizarre, parce qu'à la fois, l'alchimie entre Marsha Mason et Richard Dreyfuss, t'as l'impression qu'elle marche pas trop pendant une grande partie du film. Mais en fait, je sais pas, à la fois dans l'écriture et comment les scènes sont faites, enfin, il y a un moment où vraiment, je me suis mis, genre, quasi... pas à pleurer, mais tu vois, je me suis dit...
T'as pleuré, quoi, c'est pas grave.
Mais t'as le droit, hein, tu sais.
Alors... Je trouvais ça mignon, tu vois, et surtout, je trouvais ça bien écrit et des fois très réaliste, très juste dans la façon de décrire les personnages. Je tiens à rajouter que c'est la première comédie romantique à dépasser les 100 millions de recettes au box-office américain.
Ah ouais.
C'est la première fois que ça arrive, et après, ça va devenir...
C'est pas Love Story, après, qui a tout effoncé je crois que c'est avant Love Story des studios Paramount.
Ah ouais. Bah là, ils disent que c'est la toute première rom-com à dépasser les 100 millions de recettes.
Parce que je me souviens que Love Story, il faudrait que je me remette
peut-être
la date
quelle
en
quelle année,
tête.
Love Story ?
Love Story,
c'est avant, je crois, non ?
Ouais, mais je me souviens que Love Story, c'est un carton extraordinaire pour la Paramount.
Peut-être qu'il
un
le
des premiers gros cartons de la
comédie
romantique. Que j'ai jamais vu, d'ailleurs.
C'est un drame, je pense.
Quelqu'un a vu
Love
Story ?
C'est quand même un drame.
Moi, non, je l'ai pas vu.
C'est un drame.
C'est un drame,
film culte pour ma mère et tout. Du coup, il y a un truc que j'ai jamais vu.
Bon, pas comédie romantique.
Ça finit pas bien.
Merci.
Je dis juste que ça finit pas bien.
Oui, quelqu'un meurt quoi.
Et en fait, je me suis renseigné sur ce film.
Spoil pas.
Ou alors séparation.
Bah, dis pas.
Et je me suis renseigné sur ce film. Et en fait, l'histoire est assez marrante. C'est que donc Neil Simon avait déjà prévu de faire un film, un projet avec Marsha Mason. Et il trouvait qu'il y avait un truc à faire avec elle. Et il voulait écrire vraiment un film sur elle. Une comédie romantique, mais qui à la base devait être l'histoire de Dustin Hoffman. après le lauréat. Mmh. Ça veut dire, en gros, elle voulait écrire un film sur un acteur qui était en couple avec une femme, qui galérait un peu parce que l'acteur devenait connu et qu'en fait, bah, dans son couple, ça devenait compliqué la façon que c'était géré. Et il trouvait que Marsha Mason était parfaite pour faire ça. Ils font plein d'essais et ils tombent à un moment sur Richard Dreyfuss. Au début, ça devait être Robert De Niro qui devait tourner. Et en fait, Neil Simon, il disait, ouais, mais De Niro, je sais pas, c'est bizarre. Il n'y a pas d'alchimie, puis il n'est pas marrant, en fait. Il a un côté où tout de suite, ça rend quelque chose. Il a un humour un peu pas de situation. Enfin, ça marche pas trop avec Marsha Mason, tu vois.
Surtout que c'est, si tu peux le dire, un an après Taxi Driver, donc ouais. Il ne dégage pas un visage friendly.
Ouais.
Friendly.
Pas trop. Et en plus, à l'époque, ils ont prévu, comme réalisateur, Mike Nichols, le réalisateur du lauréat. Mm-hmm. Ce qui est assez fun, parce que l'histoire, c'était plus ou moins de se caler sur l'histoire d'après Dustin Hoffman, tu vois. Et Mike Nichols, il veut absolument De Niro. Donc, Neil Simon, c'est lui qui produit un peu le truc. Il dit non, c'est dead, je veux pas De Niro. Et là, il tombe sur Richard Dreyfuss. Il voit qu'avec Marsha Mason, ça tue. Il se dit ok, on va trouver un autre réalisateur, ça va être Herbert Ross. Mais par contre, je trouve que l'histoire de l'acteur qui est connu et qui galère avec sa femme, c'est peut-être pas le truc qu'il faut qu'on fasse. On va faire un préquel à ce film. Et on va faire le moment où ils se rencontrent. Avant qu'il devienne un acteur connu. Avant qu'il ait ce premier rôle où il va peut-être être archi connu, tu vois. Et je trouve que l'histoire, elle est marrante. En fait, le film, après, il n'a jamais été fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait un préquel du film qu'ils avaient prévu de faire. Et ça a été un succès incroyable. Il y a eu 4 nominations aux Oscars. Tous les acteurs ont été nommés. L'actrice principale, l'acteur principal, ouais, la jeune, carton, l'enfant, ouais. 100 millions de dollars de recettes. Et en vrai, je trouve que ça a bien vieilli. Musique de Dave Grusin. Comme d'hab, on sait que c'est chambé.
Alors Dave Grusin, compositeur des Goonies, de Golden Pound,
de plein de trucs.
Tiens, d'ailleurs, je tiens à ajouter que le film dont j'ai parlé tout à l'heure, la bande-son a été réalisée par Michael Kamen, que j'adore.
Ouais.
Michael Kamen, on le connaît pour L'Âme Fatale et plein d'autres films.
Ouais.
Et il y a vraiment une patte lui aussi, Michael Kamen.
Magnifique.
Alors ouais, combien sur 10 du coup ton film?
Et ben là, je lui mets un bon 8. Hein. C'était facile un 8 parce qu'en vrai, j'ai trouvé que c'était vraiment archi bien réalisé. Le scénario est charmé, surtout les dialogues sont incroyables et Richard Dreyfuss il perce le plafond avec Marsha Mason.
Ce que tu disais tout à l'heure sur que c'était méga moderne parce que finalement le rôle de la femme dedans il est moderne.
Ouais, de fou.
Et ben je me suis dit la même chose dans le Hitchcock du coup parce que tu sais en fait c'est pas la potiche des années 50 qui est à côté qui règle. En fait c'est elle qui règle le truc quoi. Donc au final super beau rôle en fait qui lui donne Hitchcock dans le film à Doris Day.
Et je voulais juste en placer une pour Kim Cummings, qui est la petite de 10 ans qui joue. Elle n'a pas joué grand-chose après. Et en fait, elle a un rôle capital dans ce film. Franchement, c'est parmi les meilleures enfants actrices que j'ai vues dans ma vie.
J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure. Moi, j'ai loué le film, 2,99€. Guillaume, tu l'as vu sur quoi, toi?
Alors, ça m'a permis de me rendre compte, parce que j'ai un coffret de tous les Hitchcock. Et je regarde, du coup, dans l'ordre quand ça me prend. Ça m'a permis de me rendre compte que mon lecteur Blu-ray ne fonctionne plus.
Ok. Voilà.
Donc je l'ai loué sur la plateforme.
Donc tu l'as loué aussi. Ok. Et Aurélien?
J'ai cherché à le louer absolument partout. Et c'est ça qui est fou avec ce film, c'est qu'il est censé être connu et que il a eu un Oscar, il a eu un énorme succès. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, notamment dans les médias américains, qu'il a perdu un peu de sa superbe et que plus personne le cite et qu'il est très Galwood, enfin plus personne le site. Je l'ai trouvé sur absolument aucune plateforme. Alors je suis sur Canal+, Prime, Apple,
tu l'as téléchargé.
Ouais, bien sûr.
Tout ça pour dire ça à la fin.
Comment tu veux que je vois ce film?
Il n'ose plus trop dire maintenant. Je l'ai pris sur
un. J'ai pas acheté le Blu-ray, c'est vrai. J'ai énormément de Blu-ray.
Mais tu vois, en fait, justement, ce que tu viens de dire, c'est parce que moi, je continue d'acheter des DVD, des Blu-ray, etc.
Ouais.
Je continue à me faire ma collection et. Ce que tu viens de dire là, parfois, ça me conforte dans mon choix de continuer à faire grandir cette collection parce qu'il y a des films que j'ai en DVD et que parfois, je trouve nulle part quand je veux les revoir, etc. Et c'est toujours rassurant de se dire, quoi qu'il arrive, je l'ai en physique et je peux le revoir.
Et surtout, ça conforte dans l'idée que c'est important, les vidéoclubs.
Ouais, c'est vrai.
Bah, oui. Parce que quand tu vas au vidéoclub de la Butte, là où on faisait Vidéostore,
ça se trouve, il l'a.
Il l'a. Ou alors, il peut t'en parler, ou alors, tu vois.
Mais ce que j'ai trouvé bizarre, tu vois, sur ce Goodbye Girl, c'est que vraiment, genre, les VHS sont sortis 20 ans après, en 93, tu vois, enfin, c'est bizarre. Pour un film qui est cartonné dans les années 70, fin 70 en plus, il n'y a pas eu de Blu-ray avant, je sais pas, 2012. Tu sais, c'est très bizarre, comment ce film n'a pas été. En fait, il y a beaucoup de critiques sur la réale de Herbert Ross, qui est considéré comme un réalisateur mineur. Pourquoi il y a pas mal de gens qui ont revu un peu à la baisse le film.
Mais quel est le studio de ce film?
Je sais pas. Je peux
vérifier.
Parce
que parfois, il y a des films comme ça qui ne sont pas réédités. Par exemple, là récemment, je me suis acheté en Blu-ray Baxter,
Film Baxter. Français.
Et je sais que pendant des années, je me souviens, je voulais l'acheter il y a une dizaine d'années en DVD. À chaque fois, je me souviens à l'époque, j'allais au Virgin Megastore des Champs. J'allais un peu partout. Il n'était pas trouvable. Et il était simplement trouvable dans une version à genre 120 euros. Ça n'a pas de sens d'acheter un film 120 euros. Et finalement, ça a été réédité. Et parfois, il y a des films comme ça. C'est une histoire de licence.
Combien tu mets max dans un Blu-ray, toi ?
Je crois que le plus que j'ai dû mettre dans un Blu-ray, hors coffret, hein, juste un film.
Ouais.
Je sais pas, ça doit être. Je sais pas, 35. 40, ça coûte combien les steelbooks là ?
C'est prix ouais, c'est ouais 25, ça. 30, ça peut
et
aller
toi, Guillaume ?
35. Ouais.
Non, je pense que c'est ça. Non, mais mon prix max que je mettrais, tu vois.
Ah, le prix max que je mettrais, bah, en fait, c'est plus pour des éditions spéciales. C'est-à-dire que si c'est un beau DVD avec des, plein de bonus, il y a un petit goodies en plus, tu vois, parfois ils font ça comme ça.
Ouais.
En vrai, si c'est vraiment un film que j'adore, je serais prêt à aller jusqu'à pour aller 50, 60, non, max ?
Ouais, voilà.
Ouais, ouais.
Tu mets pas 100 balles dans un blu-ray.
Non, 100 balles, c'est un délire.
Ouais, c'est chaud quand même.
Parce qu'il y a par toujours contre, un article où on a un prix max, tu vois.
Par contre, j'ai augmenté mes prix max. Moi, je collectionne pas mal de trucs. Et là, récemment, j'ai augmenté mes prix sur les affiches.
Ah ouais.
C'est-à-dire que je m'étais toujours dit que je mettrais pas plus que, je sais pas, 60, 80 euros dans une affiche. Et là, récemment, je me suis acheté deux affiches qui, quand même, montaient à 200 et quelques euros en tout. Quoi.
La pièce
ouais. 200, ouais, la 200 la pièce. C'est une affiche de My Dinner with André.
Ouais.
Ah, stylé.
Que j'ai acheté à 180 euros, un truc comme ça, mais elles sont hyper rares à trouver. Et l'autre, c'est une affiche géante de News from Home de Chantal Akerman, qui est un de mes films préférés.
Mmh.
Et pareil, dans ces eaux-là. Mais parfois, c'est des affiches comme ça qui sont tellement dures à trouver. Par exemple, là, j'essaie de m'acheter une vieille affiche de Stromboli de Rossellini. Mais pareil, c'est un peu ces prix-là et c'est dur à trouver, quoi. Mais en fait, le truc qui est cool avec les collections comme ça, c'est que, quoi qu'il arrive, tu vas mettre beaucoup dans un produit. Et tu le sais, Guillaume, toi aussi, qui collectionne des trucs. Mais quelque part, c'est un peu un investissement dans le sens où tu sais que si un jour tu veux le revendre, ce sera au même prix, voire plus cher.
Mais après, les films que tu as cités, tu tombes pas sur des vieilles rééditions, tu sais. Genre, tu vois ce que je veux dire ?
Si
tu t'as acheté l'affiche de Retour à le futur, bah, tu sais, elle est partout, quoi. T'as juste elle a été photocopiée 15 000 fois.
C'est clair.
Mais l'affiche de Stromboli, bon, bah, c'est forcément l'original, quoi.
Ouais, mais en fait, je suis pas totalement d'accord dans le sens où chez Guillaume, il y a une sublime affiche dans son salon de Retour à le futur 2.
Mmh.
Et là, récemment, quand je mangeais chez toi, je t'ai dit. Si tu devais sauvegarder un seul objet dans ta pièce, tu prendrais quoi ? Et tu m'as dit cette affiche.
Oui, oui, mais parce que ça, c'est une vraie affiche. C'est une vraie affiche originale. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais Stromboli, le prix que tu trouves, c'est jamais une réédition.
Bah,
c'est jamais une contrefaçon.
Il y a des rééditions, il y a plein de contrefaçons en fait.
Ah
c'est
ouais
ça le problème.
Même
ouais
pour ces films-là.
Quand tu tapes Stromboli, ouais, il y a. J'ai vu. Enfin, ça dépend. My Dinner with André, quoique. Non, c'est film-là, il n'y a pas.
Il y a pas des gens qui se disent, ah, je vais refaire un My Dinner with André, je vais mettre sur Etsy, ça va cartonner.
Là, non, bah,
s'il a vendu 200 balles, mec.
Bah, My Dinner with André, il y avait des contrefaçons, figure-toi.
Ça, c'est un délire.
Ouais.
Et tu sais que, alors, tu parlais des Primax, et souvent, on s'envoie des goodies de films, et les t-shirts de Primax, ils bougent pas.
Ouais.
Tu sais, les t-shirts de films, genre, il y a un t-shirt qui est sur Etsy, vous pouvez vérifier, il est tout le temps. T-shirt The Mask de l'époque, le gars, il le vend 900.
Non, mais ça, c'est.
Jamais ta vie va partir à 900.
C'est parce qu'il veut pas.
Mais ça, c'est n'importe quoi. Mais après, par contre, il y a
900.
Je crois que le max que j'ai dû mettre pour un t-shirt, pareil, ça doit être 150, 180 peut-être.
Ça a bien augmenté en tout cas les prix.
Ah, non mais ça a augmenté. Moi à l'époque, donc moi je collectionne aussi les vêtements de film. Et moi je collectionne depuis 2009, 2010. Et à l'époque, les t-shirts ou les trucs de film comme ça, tu les trouvais pour 20 euros, 30 euros quoi.
Ouais.
C'était vraiment rien. Et ces mêmes t-shirts aujourd'hui ils valent, parfois comme a dit Guillaume, on s'envoie les prix, il y a des 800, 700, 900. C'est affolant quoi. Récemment j'ai mis des trucs en vente sur mon Vinted. Et j'avais acheté un vieux t-shirt de Big avec l'étiquette 20th Century Fox, la sortie du film, etc. sur l'étiquette. En général, ce t-shirt, il est à 500, 600 euros, quoi, tu vois. Mais j'ai essayé de le vendre et je l'ai mis à. J'ai pas envie de le brader parce que je connais les prix, mais je l'ai mis à 150, tu vois. Mais même à 150, ça part pas.
Ouais.
Parce que aussi, c'est en France, mais c'est pas le même public, quoi, tu vois.
C'est pour ça qu'on a été surpris quand on était à Tokyo, tu te rappelles ? On se disait, putain, il y a vraiment des films, des trucs qui pourraient vendre grave plus cher. Je pense à une lunchbox de Retour à le futur d'époque.
Ouais.
Je l'avais vu pour 8 balles. J'étais trop content. Je l'ai toujours chez moi.
Tu te rappelles quand on pensait que tu avais trouvé le vinyle de Retour à le futur, mais en fait, c'était.
Ouais, c'était le laserdisc.
Ouais.
Mais laserdisc, Jap et tout.
C'est stylé quand
même. Tout écrit en japonais avec le livret à l'intérieur, ça m'a régalé quand même.
On avait acheté tellement de trucs. On était parti à Tokyo avec Guillaume. On avait. À chaque fois qu'on va à l'étranger avec Guillaume, on a une phrase qu'on adapte à chaque ville. On se dit. C'est pas tous les jours.
On n'est pas
tous les jours à et on dit le nom de la ville quoi. Parfois après, on hésite sur le fait d'acheter un truc. On se dit bon allez on n'est pas tous les jours.
Heureusement
à Tokyo,
qu'on n'est pas fan de manga et tout parce que bon.
Ah ouais grave.
Voilà,
on avait acheté tellement de trucs. Puis en plus il y a beaucoup d'achats de pulsions à chaque fois très souvent.
Ouais, ça,
même quand on va chez Amoeba à Los Angeles.
Ah oh, bah moi j'ai acheté des cassettes là.
Ouais, voilà j'ai
acheté 15.
Mais déjà, je sais que
ça rend fou. Je vais peut-être pas en prendre 15, je vais en prendre que 10.
Non mais ça rend fou. Et puis en plus on y allait un jour. Puis un jour après, comme l'hôtel était pas loin, on fait vas-y, on y repasse.
Oh oui, grave.
Comme s'il y a des trucs qu'on n'avait pas vus, alors qu'il faut pas du réassort tous les jours, tu vois.
Ouais, mais il y a quand même des trucs que j'avais retrouvés.
Ouais, tu vois.
Mais par exemple, tu vois, tu sais, en fait, il y a ce truc d'achat de pulsion. À un moment donné, j'étais tombé sur un vinyle. En fait, c'était des interviews de chiens dans les années 60 sur la CBS ou un truc comme ça. Et la pochette était trop bien, etc. Tu sais, tu vois ça, tu te dis, je sais que c'est un truc que je vais pas trouver en France. C'est CBS, tu vois, c'est des chiens, tu sais, c'est
Est-ce que tu vas vraiment l'écouter ?
Une imagerie, mais j'ai jamais écouté, tu vois.
C'est l'objet.
Mais l'objet est cool, quoi. Enfin, bref. Aurélien, on n'a même pas écouté ta chanson. Quel est ton titre ?
Bah alors, ma chanson. En ce moment, je réécoute beaucoup un groupe qui s'appelle les Ghetto Boys. C'est un groupe de Houston, dont le rappeur le plus connu est Scarface. Mais il y a aussi Willie D, Bushwick Bill, le fameux homme de petite taille avec un œil crevé malheureusement qui est dans ce groupe, signé sur le fameux label Rapelotte. En ce moment j'écoute beaucoup leur album The Resurrection qui est sorti en 1996, notamment le morceau The World is a Ghetto. To the other side, where many people learn to live with their handicaps while the others die. Where motherfuckers had no money spots, and if they did, then they ass went insane when all the money stopped. I'm from the ghetto, so I'm used to that. Look on your motherfucking map and find Texas and see where Houston at. It's on the borderline of hard times, and it's seldom that you hear niggas praying and giving God time. Très bien, merci Aurélien. Attends, j'allais dire un truc juste avant. Oui, alors rien à voir parce que j'ai pensé, mais tu parles. Là, t'avais du mal à trouver le titre. Ouais. De cet album. Ouais.
Album que tu maîtrises pourtant, que t'adores, tu vois.
Ah ouais, ouais, l'album,
et souvent avec Guillaume on se dit c'est très énervant les gens qui ont des t-shirts de groupe et qui sont incapables de citer ne serait-ce qu'un titre.
Ah, c'est vrai.
De ouais, ce ça, groupe. C'est détestable, ça.
Ça c'est détestable, hein. Mais par exemple moi vous savez j'adore Sun Kid Moon, Mark Kozlek, et en fait bon, moi je suis assez nul en blind test. Vous vous êtes fort en blind test, vous arrivez
je
à trouver
pas très bon, moi.
Non alors Guillaume est très fort. Guillaume il arrive à trouver tout de suite le nom, etc. Moi par exemple dans un blind test j'ai du mal à trouver tout de suite le titre.
Ouais.
Et je me suis imaginé un type qui vient me voir, mettons je porte un t-shirt Sun Kim Moon et qui me dit donne-moi des titres de Sun Kim Moon. Et ben tu vois je suis capable de perdre mes moyens peut-être.
T'es en stress.
Ouais.
Alors que tu sais je les connais toutes par cœur, ben, les chansons quoi, tu vois.
Après moi j'ai de la mémoire de chansons mais j'ai pas la mémoire de comme vous faites tu vois de genre ah tel réal avec tel acteur machin t'sais. Le ciné pour moi c'est flou.
Tu vois c'est, bah, c'est parce que à mon avis je peut-être je suis pute mais je pense que JB et moi on a plus une mémoire visuelle et toi tu dois avoir plus une mémoire auditive.
Ah. Auditive ouais je pense.
Parce que moi en fait je vois un truc je vais m'en rappeler. Là tu vois par exemple j'ai vu la pochette j'ai vu les titres. Là, je peux te redire dans quel ordre les titres ils sont.
Ouais, ouais, ouais.
Mais pareil, tu vois, moi les.
Et les morceaux, je les ai écoutés des milliers de fois, je me rappelle jamais des paroles.
Ouais, ouais, c'est clair.
Mais tu vois, je sais que les films, acteurs, nom de réal, même compositeur sur le film, etc., ça, je vais te le retrouver.
Ouais.
Pareil pour le foot. Le foot, je vais pouvoir te trouver le joueur, l'année, l'équipe, etc., machin et tout. Mais dès que tu me demandes de trouver un son, ou tu sais, même parfois les musiques de films, et en plus, il y a un truc de pression où tu sais, d'un coup. Et en plus, tu restes sur une idée, donc du coup, tu. Ouais. Enfin, bref. Mais Guillaume est très fort pour ça.
Et justement, on parlait de ça, c'est tellement important. Pour nous, les trucs culturels, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, chacun dans ce qu'on a écouté, mais moi j'ai tellement passé de temps à acheter des disques, à traîner dans des disquaires,
ouais,
à aller à des concerts, à écouter des sons, à lire des magazines, etc., etc.
Ouais.
Que quand je vois des gens pour qui c'est juste un look, ça me fout les nerfs.
Ouais.
C'est genre, arrête de mettre ça, putain.
Après, c'est
ça nous énerve.
C'est une culture, en fait. C'est pas une. Casse-toi. Ça m'énerve.
C'est comme les fameux t-shirts des Ramones d'H&M.
Ouais, allez, vous inventez pas des vies, là. Stop.
Ouais. Oui, alors, il y a un truc qui nous
énerve beaucoup.
Est-ce que ce serait pas le pot de chiasse, là qui...
Allez, ça part en pot de chiasse.
Ça part en pot de chiasse.
Super titre, le pot de chiasse. On veut tous le pot de chiasse. Et n'empêche, on peut faire parfois un petit peu de pot de chiasse dans les podcasts sans citer des noms.
Oui, mais ouais. Le pot de chiasse, c'est genre.
Le pot de chiasse.
Que ce soit. Tu sais, on le passe sous le manteau, c'est en cassette. Tu sais, on le fait en cassette.
Moi, je trouve ça très sous-coûté.
Oui, si vous voulez écouter le pot de chiasse, rendez-vous à la chapelle. Ouais,
voilà.
On fait
des cassettes sur le manteau.
On se crède. Uniquement avec des gens qui savent les noms des morceaux, des t-shirts qu'ils portent.
Non, mais avec Guillaume, on est très énervé par les gens qui s'inventent des vies.
Mais oui, arrêtez ça.
Et récemment, il y a nous. Alors, c'est le pot de chiasse.
Le pot de chiasse.
Il se peut qu'on termine un peu par un peu de pot de chiasse à chaque fois.
Oula.
Mais il y a un truc en ce moment qui nous énerve avec Guillaume.
Attends, dis-le d'abord, après je vois si je me. Je vois si je me mets dedans.
Ouais, lui, il se
désolidarise.
Ouais, j'ai même pas parlé. Non, il y a un truc qui nous énerve.
Oui.
C'est les gens qui ont une attitude. Et très souvent, on se dit vas-y, parle normal là.
Oui, sois normal.
Sois normal, voilà.
Soyez
normaux.
Ah, ouais.
On peut en parler de ça, Guillaume, ou pas ?
Soyez normaux. Alors déjà,
tu
si
je désolidarise pas, là.
File un message sur les réseaux sociaux, là. Soyez normaux. Voilà.
Oui, soyez normaux.
Voilà. On est tous normaux.
Soyez normaux.
Non, mais alors, est-ce qu'on peut expliquer quand même, parce que les gens comprennent pas trop.
Par exemple.
Par exemple, ce serait. Non, je vais pas citer de nom. Non, mais par exemple, c'est les gens, parfois, ils ont une. Bah, si, tiens, je peux citer.
Cette façon de tweeter, par exemple.
Non, mais tu
parlez normalement quand vous tweetez.
Ouais, parlez normalement. Ah, c'est un très bon exemple. Ouais, voilà. Par exemple, les gens qui vont dire. Je sais pas, qui vont commencer leur tweet par. Bonjour à tout le monde, sauf à. Tu vois, ce genre de. Enfin, tu sais, il y a toujours des formulations, ah ouais. des tweets.
Bonjour à tous, sauf à ceux qui écoutent le podcast FTC.
Qui font des critiques ciné en tweet. Et parfois, t'es là, bon, vous.
Ah oui.
Vous vous écoutez écrire. Ça n'a pas de sens. Personne ne parle comme ça. Tu sais, ce truc de genre. Comment on pourrait citer ? On n'en a pas sous le coude, mais vous voyez très bien ce que je veux dire.
Moi, j'ai un exemple. Récemment, je t'ai envoyé une image. Alors, je vais citer un nom. Voilà.
Oh non !
C'est le pot de chiasse. Ah bah si !
Ah bon.
C'est le pot de chiasse. Non mais récemment, par exemple, c'est vraiment pour que vous compreniez.
Biplé après.
Oui.
Biplé.
Non mais par exemple, récemment, il y avait une période où. Comment elle s'appelle la fille de Vincent Lindon ?
Bien sûr.
J'ai oublié son nom, bref. Ouais. Elle avait une grande couverture médiatique parce qu'elle avait sorti un film, etc., qui avait été pas mal relayé dans les médias. Et elle était invitée chez Quotidien. Et pendant son invitation, elle avait demandé un Diabolo grenadine avec une paille, etc. Et j'aurais siroté sa grenadine. Et j'ai juste envoyé cette image à Guillaume en lui disant « Bon, soyez normaux, là
!» Parce que... Oui, mais alors après, il y a des gens qui pourraient te rétorquer, à juste titre. Oui, mais alors du coup, soyez normaux, c'est lisser tout le monde, quoi.
Non, oui, alors c'est très bon débat, Guillaume. Oui. Bravo. Non, mais ce que j'ai pas là, c'est qu'on ne fera pas croire qu'elle ne s'est pas dit avant « Tiens, pour le style et pour la pose, je vais demander... » Un Diabolo Grenadine, parce que Diabolo Grenadine, ambiance époque film de Romer, etc. Tu vois l'ambiance, tu vois. Et elle s'est dit, tiens, je vais être avec ma petite Grenadine pour me donner un style. Et c'est là qu'on se dit, bon allez, sois normal. Mais alors, sois normal ne veut pas dire sois lisse non
alors
plus.
Alors ça élargit le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soi et qu'est-ce qu'on fait pour son image. Parce qu'on peut se dire, tiens, ça, je m'habille comme ça pour mon image, ou alors je m'habille comme ça pour moi. Parce que
juste en parenthèse, il y en a un qui se désolidarise, c'est Nemo.
Oui, lui, sans branle.
Il est sur son portable, il écoute.
Il est en train de jouer au serpent. Non, mais,
c'était quoi ta question, Guillaume? Parce qu'elle était intéressante.
Bah, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est nos goûts ou qu'est-ce qu'on fait par image? Parce qu'en fait, parfois, on se dit, ah tiens, parce que ouais, c'est un très long débat là, on parle dans un podcast.
Ah, c'est le pot de chiasse.
C'est le pot de chiasse.
C'est le pot de chiasse.
Parce que parfois, on peut se dire, tiens.
D'ailleurs, dites-nous sur Twitter si vous aimez le pot de chiasse.
Qu'est-ce que je fais qui est vraiment moi? Ou qu'est-ce que je fais parce que, oui, effectivement, c'est la mode. Parce qu'il y avait une mode qui s'est lancée après Stranger Things, etc. C'est effectivement toute la culture que nous, on avait, parce qu'on l'a vécu en tant qu'ado, d'un seul coup, c'est devenu cool.
Il n'y avait que des enfants des années 80.
C'est devenu cool et tout le monde était là. Les gars, ils ont 22 ans, ils sont là. Moi, je suis la génération Retour à le futur. Je te dis, mais non, c'est faux. C'est pas vrai, tu vois. Ouais.
Après,
c'est juste
après
pas
ils peuvent adhérer tu peux à aimer. Cette culture. Par exemple, moi, je me souviens que quand j'avais 10, 14 ans, il y avait des albums d'Otis Redding chez ma mère, Al Jarreau, etc. Et en fait, j'écoutais que ça à un moment donné.
Ouais.
Et tu sais, j'aurais très bien pu dire, ah, moi, c'est mon style de musique, alors que c'est les années 70, quoi, tu vois.
Mais
et c'était pas ma
génération. C'est pas ça que je veux dire. C'est...
Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire.
Oui, mais j'ai peut-être mal expliqué, du coup.
Non, mais si, en fait, c'est les gens qui s'inventent une vie et qui s'inventent un passé, peut-être.
Ouais, vous inventez. Chacun a son truc, c'est pas grave, quoi, tu vois. Effectivement, nous, on est probablement ringards. Hein. C'est sûr.
Ah, on est ringard, nous? Moi, je crois pas, c'est toi qui es ringard.
Moi, je suis ringard. Moi. Je suis ringard.
Ah, t'es ringard, toi?
Mais c'est pas grave, c'est
on
cool.
On s'approche de la ringardise.
Ah, bah là, c'est sûr.
Non, mais je pense pas qu'on soit
ça dépend,
ringard.
Ça dépend. Va.
Dites-nous sur Twitter si on est ringard. le dites pas. Dites-le pas.
Moi, quand
dites-le,
je
sauf si on l'est pas.
Non, en vrai, moi, je me trouve pas ringard. Par contre, la difficulté quand tu vieillis, c'est de pas faire trop jeune et de pas faire trop vieux non plus. Ça, c'est une grande difficulté. Vous vous rendez compte quand vous prenez.
Oui, mais alors voilà, moi, je pense
pas
que
faire
voilà.
De jeunisme et en même temps.
Exactement.
Pas faire
le problème, alors ça rejoint ce que je dis, le problème, c'est d'y réfléchir. À partir du moment où tu n'y penses pas, et c'est. Donc si tu n'y penses pas, c'est uniquement toi. Tu dis, bon, c'est mes goûts, quoi. Je m'habille comme ça, c'est ainsi va la vie. Tu vois, nous, on se dit pas le matin, ah, si je mets cette casquette, je vais être cool, alors je fais ça. Tu vois ce que je veux dire
ouais.
C'est juste que c'est
on
nos goûts,
cool.
On fait ça. Non, mais c'est parce qu'on fait. Tu vois
ouais.
Nous, on réfléchit pas à comment on...
Mais déjà, peut-être qu'on réfléchit pas à ça parce que je pense qu'ici, dans cette salle, on est tous en mode en vrai, moi je n'ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Tu vois, il y a un peu ce truc aussi où.
Bah, si vous avez vu mon Instagram, vous vous dites bien que oui.
Oui, voilà.
J'en ai un peu rien à foutre. Mais
non, mais oui, parfois. Mais en fait, je pense qu'on a tous ce truc où aussi on a envie de. On a envie de
d'appartenir
plaire,
à un sort de truc.
Donc, si on a envie de plaire, est-ce qu'on s'invente un personnage? Parce que forcément, quand on est en mode on veut plaire, est-ce qu'on
il
est vraiment
fasse,
nous-mêmes?
Il faut qu'on fasse un podcast philo.
Bah oui.
Alors fait. Qu'on avait vraiment des
kiffs. C'est plus trop un pot de chiasse du coup là.
Maintenant, c'est un truc existentiel.
Ouais, bah c'est un mix de tout.
C'est
ouais.
Un truc existentiel. En tout cas, arrêtez d'être pas vous. Voilà, soyez vous-même. Arrêtez de porter des t-shirts dont vous connaissez pas le nom du groupe. C'est débile.
Ça te sert à rien.
Moi, ce que j'aime pas, c'est juste voilà. Arrêtez d'avoir une attitude.
Oh, si je peux me permettre.
Ah.
Je peux me permettre un dernier truc.
Ah,
pot de chiasse.
Je pense que c'est déjà fini. Bon, tout le monde sait que c'est fini. Arrêtez de le faire. Ceux qui font le signe de Jules sur les photos, allez.
Ah non, non.
Non, ça, c'est, non, ça c'est
fini. Est-ce que c'est le nouveau dab?
C'est fini, ça. Non, ça déjà, c'est le nouveau dab. Et en plus, déjà, ceux qui font le signe de Jules, alors que bon, ouais, bon, ouais.
Non, non, je sais plus. Guillaume, je le connais par cœur et il y a un truc qui nous énerve. Parce que moi, je le dis, c'est le podcast.
Oh, dis-le.
Moi, il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve.
Allez, stop.
Et ça m'énerve d'autant plus que je suis né à Drancy. J'ai vécu pratiquement la moitié de ma vie dans le 93. Et il y a un truc que je déteste, c'est les bourgeois et les bourgeoises parisiennes qui font leur mec et leur meuf un peu gang en écoutant du rap français en soirée. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. T'aimes bien ça, toi, Guillaume, ou pas?
Moi, j'ai rien, j'ai un contre. Après,
Si tu détestes, allez, je le sais.
Mais non, j'ai rien dit, moi.
J'adore, moi.
Toi, t'aimes bien ça, Nemo, ou pas? Tiens, qu'est-ce que t'en penses?
Mais ça rejoint, toi, ça rejoint ce truc de s'inventer une vie, vous inventez pas une
ouais.
vie.
Ouais, non, mais toi qui es chef musique chez Combini, en fait, qui parle beaucoup de rap, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Bah, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, t'as le droit d'écouter la musique que tu veux.
Bien sûr. Après, mais est-ce que tu dois rajouter une attitude et t'inventer une vie?
Tu peux kiffer aussi. Oui, mais c'est-à-dire que ça fait partie de la. Est-ce que, par exemple, dans les années 70 ou 80, à chaque fois qu'il y a un truc de rock qui vient, t'écoutais pas forcément du rock avant, t'écoutais que de la chanson française. Il y a un truc un peu rock, un peu plus rock metal, on va dire, glam, et en mode, tu vois, avec des grosses guitares. Et là, à chaque fois que le morceau arrive, ah, ça j'aime bien, et tu imites un mec qui joue de la guitare. Les mecs qui sont vraiment dans ce truc, ils vont te dire, putain, les ringos. Mais est-ce que t'as pas le droit de faire ça, tu vois? Moi, je suis en mode genre, bah vas-y. Un truc qui me dérange, c'est les gens qui aiment pas le rap français, mais qui adorent Booba, par exemple, tu vois. Et qui parlent de Booba comme si c'était des fois Jésus, tu vois. Parce que il a un impact important, mais un peu comme Tupac dans le rap américain, tu vois. T'as pas besoin d'avoir écouté beaucoup de morceaux, de connaître beaucoup la musique pour apprécier. En fait, ça devient une sorte d'icône, ça représente encore plus que la musique, tu vois.
Bah,
est-ce que
sûr.
Ça me dérange? Un peu. Est-ce que ça. Ils ont pas le droit? Bon,
Oui, mais attention, c'est pas pareil avec ce qu'on a dit, parce que moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que je suis allé à des soirées dans le 93
ouais.
et je suis allé dans des soirées de méga bourgeois.
Ouais.
Donc j'ai vu les deux.
Ouais.
Et en fait, il y a un truc que j'ai quand même constaté au fil du temps, c'est qu'il y a quand même chez ces enfants de bourgeois, qui ont, alors moi je te parle vraiment dans la vingtaine, etc.,
ouais.
Cette envie de sentir un peu dangereux.
Ouais, ça, d'accord.
Parce qu'ils n'ont jamais connu ça, quoi, tu vois.
Ouais,
donc il y a cette envie de sentir un peu dangereux et d'être un peu ghetto parce que toute la vie, ça a été, je sais pas, le 17e ou le 16e ou le 8e, etc. Et puis, t'as envie d'être un peu. Tu vois, t'as pas envie d'être lisse et d'être le fils à papa. T'as un peu honte d'être le fils à papa.
Alors
etc.
que c'est donc, trop bien.
Alors que c'est trop bien. Et ce qui est drôle,
parce
c'est que moi. Alors que moi,
t'as pas de problème,
alors que moi, quand j'habitais
non,
en 93.
Non, mais t'as des problèmes, probablement. Ouais, ce que je veux
non,
dire.
Bien sûr, mais moi, quand j'habitais en 93 et que parfois, je faisais. La ligne 5, Drancy 8e, et que j'allais dans des soirées de gens méga blindés, moi, c'est là où je voulais être, en fait.
Oui.
Je voulais pas rentrer à Drancy, tu vois, j'étais là genre, mais c'est trop bien ta vie, en fait. Pourquoi tu veux faire le mec un peu ambiance ghetto-cité? Moi, c'était très bien, là, c'est trop bien comme vie, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Donc, bon, en fait, à chaque fois, c'est le point de vue en fonction de là où t'es, etc.
Mais en fait, tu veux jamais appartenir à... Parce que pareil, t'as des mecs qui galèrent et qui, le week-end, ils vont tout claquer sur les champs en faisant genre, on est grave blindé, alors qu'en fait, ils roulent en Twingo et ils viennent de citer, tu vois. C'est la même chose dans l'autre sens. Ils veulent faire genre, ouais, je suis un bourgeois, quoi.
Alors, écoutez, je vais terminer ce débat avec une phrase de Groucho Marx qui disait « Jamais je n'accepterai de faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. »
Voilà.
Je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'il disait.
Je vois ce que tu veux dire.
Je vois ce que tu veux dire.
Non, je vois pas, mais c'est pas grave, j'ai compris.
C'est le podcast.
Tu sais, parfois ça vous arrive pas, genre, tu sais, il y a quelqu'un qui balance une citation, mais tu la comprends pas et tu fais. Ah ouais.
Mais tu vois, c'est comme
genre,
si nous.
Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est comme si nous, on était là, genre, ouais, on est des intellos et tout. Non, c'est pas vrai.
Non.
Non, on n'est pas des intellos.
Ah, on n'est pas des intellos.
Tu vois.
Ah non, mais j'ai toujours.
Toi, tu pensais que t'étais un intello. Ça s'entend. Ça s'entend à nourrir. On n'est pas des intellos, c'est sûr et certain.
Oui,
on va pas s'inventer une vie là.
On n'est pas des idiots.
Ouais, on est pas loin.
Ouais, allez là.
Non, ça va.
On est un peu cultivé. On est un peu cultivé. Voilà.
Oh, lui là, écoutez-le là.
Non, c'est vrai, on est cultivé.
C'est le matheux. C'est le matheux.
Ah, bah, ouais, on est cultivé.
Sur Twitter, si on est cultivé.
Cultivé, ça veut juste dire qu'on connaît plein de trucs. Ça veut pas dire forcément qu'on est intelligent.
En tout cas, moi,
ce podcast n'est plus un podcast ciné.
Oui, non, mais moi,
c'est le podcast.
Le podcast. Non, mais moi, j'adore ce format où on est juste tous les trois. Et du coup, il y a deux formats qui se dégagent. Et les deux formats, je les adore autant. Un invité pour parler d'un film précis.
Ah oui.
Et là, tous les trois, on parle d'un film, etc. Et je prends autant de plaisir à faire les deux.
On a oublié de faire un truc.
Ah.
Qui a envie de voir quel film?
Ah bah oui, on va se terminer comme ça. Alors,
ouais.
Ça a donné... Guillaume, ça t'a donné envie de voir quel film? C'est vrai que c'est la tradition.
J'ai envie de voir les deux parce que j'adore le casting du tien, mais j'ai plus envie de voir celui de Nemo qui avait l'air vraiment pas mal parce que je suis très comédie romantique et j'adore ça.
Ah.
Bah moi, j'ai déjà vu le tien, Guillaume, au collège, mais j'aimerais bien le revoir. Mais effectivement, ce sera celui d'Aurélien que je n'ai jamais vu. Et le fait qu'il soit difficilement trouvable...
Bah, vous connaissez votre dealer, hein, les gars.
Me donne envie de le voir. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, parfois, quand je galère à trouver, pour tout vous dire, le film dont j'ai parlé, là, Nothing But Trouble, je l'avais commencé genre à 2h du mat ou un truc comme ça. Il me restait 30 minutes et je me suis endormi. Et les deux jours suivants... Et d'ailleurs, je trouve ça très peu quand tu loues un film 48 heures. Franchement, mettez 3-4 jours, ça va.
Eddie Murphy.
Et donc voilà, donc en gros, je ne l'avais pas terminé. Et j'ai demandé à Aurélien, j'avais la flemme de repayer 3 euros encore. Et j'ai demandé à Aurélien.
Le pire.
La phrase, elle est catastrophique.
En le disant, je me suis dit, putain, quel crevard.
Le pire.
J'avais la flemme de repayer 3 euros.
Non, mais c'est relou de repayer 3 euros pour 30 minutes de film, quoi.
Et question pour toi, qui va te mettre dans la.
Mais moi, on ne met jamais dans l'embarras.
Qui te met en galère devant les auditeurs. Maintenant, quand on paye dans les supermarchés par carte bleue, on te propose de donner à une cagnotte. Ça t'appuie sur vert ou sur rouge pour arrondir le prix. Ouais. Tu t'appuies sur vert ou sur rouge, toi?
Pourquoi tu me parles de ça?
C'est une question.
Mais pourquoi tu me parles de ça?
C'est une question dont je te pose. Que je te pose.
Et je me demande pourquoi tu me parles de ça.
Vas-y, dis-moi oui ou non.
Non.
Tu donnes pas aux associations, toi.
Pourquoi tu me dis ça?
C'est une question parce que tu veux pas dépenser 3 euros pour un film. Non, mais c'est pour savoir.
Non, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que moi, je réponds tout le temps avec une grande franchise.
T'as dit, on peut pas te mettre dans l'embarras. Bah, vas-y.
Ah bah, c'est pour ça que je dis non.
Allez, avec plaisir.
Mais je réponds toujours. Et très souvent, quand je suis au Franprix et qu'on me demande le truc rouge, bon, j'ai le réflexe de pas appuyer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de nature, je suis assez parano. Et très souvent, je me dis, imaginons qu'en fait, ça va jamais aller là-bas. Ouais. Et que ça va dans le Franprix, etc. Bah, la flemme.
Après,
quoi,
c'est une question de centimes.
Moi, j'ai encore une technique encore plus
bizarre.
Oui,
question de centimes, mais. Non, là,
il commence à
t'arnaquer
parce que
maintenant,
c'est une heure. Des fois, c'est un euro. Ça veut dire.
Ah non.
Je te jure, mec.
Mais si, ça arrondit à 90 centimes.
Aujourd'hui, j'étais.
Ouais, c'est plus du tout un podcast.
Aujourd'hui, je suis allé prendre.
C'est que choisir. C'est que
du Franprix.
Aujourd'hui, c'était un contron. Ça faisait 13 euros. Il m'a demandé si je voulais donner 14.
Ah bah non.
Bah si.
Ah bah ça marche pas.
Bah si.
Bah non.
Oui, non.
Oui, mais
c'est genre
13,05.
Arrondi au-dessus. 13,05. En fait, arrondi au-dessus, c'est pas 13. Ouais. Fallait quand même que tu proposes de donner quelque chose.
Non, mais donc on te propose de donner 90 centimes.
Moi, enfin, attendez. J'aurais quand même répondre à. C'est un débat de politique. J'aurrais quand même répondre à mon camarade, là.
Le Potias.
À Guillaume.
Oui.
Le Potias.
Il est là à m'attaquer en me demandant si j'appuie sur le bouton rouge ou bouton vert au Franprix.
Oui.
La pilule rouge.
Mais je tiens quand même à lui rappeler que récemment.
Oula.
J'ai vendu 93 maillots de la JAD. Football, et les 6000 euros résultant de ces 93 maillots ont été reversés à la jeunesse drancéenne.
Pas mal.
Est-ce que vous, dans votre commune, vous avez déjà fait ça, mon collègue?
Alors, excusez-moi, monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint, je me permets de prendre la parole.
Est-ce que vous avez fait ça dans votre commune, à mon collègue?
Attendez, qu'est-ce qui me le prouve que ça a été reversé?
Eh bien, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Réaliser un petit rêve. Prochainement, je vais aller chez Copytop et je vais faire un immense chèque et je vais faire la photo avec le président.
Ah, c'est bien, ça fait voilà. Ah, fais-le, s'il te plaît.
Je vais le faire.
C'est légendaire. Allez, hop, c'est parti.
Ah,
je vais le faire en plus.
En plus, les gens, ils les ont attendus longtemps, les maillots.
Ouais, longtemps. Oh. Et je vais faire la photo avec le président avec le gros chèque. Comme
ah,
ça.
Ouais, ça régale, ça. Et moi, quand j'étais petit, premier degré, je pensais que c'était le chèque que t'allais ramener à la banque.
Tu mets la caisse d'épargne et
tout. Regardez, j'ai un gros chèque.
Ouais, c'est légendaire. T'arrives pas à le mettre dans la boîte.
Tiens, et là, il y a une meuf qui a gagné l'euro million 183 ou un truc comme ça.
Pouh. Ah, le dernier euro million, c'était 130.
Et si tu gagnes 183, est-ce que tu reviens au podcast comme ça avec nous?
Bien sûr.
Oh. Ah.
Pas vous?
Ah, bah non.
Ah, je serais tout seul. Ah, c'est relou.
Mais en fait, je me dis toujours, ouais, les gens, ils disent, ouais, tu gagnes des millions et tout. Bah après non, je ferai plus tout ça, j'irai pas travailler. Mais tu
bien
fais quoi
sûr.
En fait? Mais tu fais quoi?
Non, si, moi j'ai besoin d'avoir
moi, j'aimerais bien
des objectifs
tranquille.
Et tout.
Ah ouais, tranquille, ouais. Mais tu fais quand même des
Mais après t'as plus la pression de rien quoi.
Eh, tu nous donnes combien si tu gagnes 183?
Bah rien.
Que dalle.
Je te donne 3 euros pour que tu loues le film.
Et pour que tu payes 1 euro à chaque fois que tu vas faire des courses.
Vas-y, arrondi à 1 million.
Arrondi.
Arrondi.
183 millions, waouh.
Bon, écoutez, je pense qu'on a assez débordé.
Bah, pas de oui. En fait, j'ai envie de voir vos films, mais j'ai très envie de voir le film de
ah
JB.
Ah oui, tiens.
Alors... Comme par hasard.
Alors, Aurélien.
Parce que je l'ai déjà vu, Hitchcock, je me les retape tout le temps.
Non, mais en plus...
Excusez-moi, les gars.
J'adore.
Je suis sûr qu'Aurélien va adorer.
Je suis un fanatique.
Trouble.
Ouais, je pense, c'est ce que tu m'as dit, et en effet,
non, mais
ça a l'air
bien.
Mais imagine ce soir, là.
Absurde.
Tu rentres chez toi, tu te le mates, là.
Allez, d'accord, je vais
essayer de faire ça. Qu'est-ce qui t'empêche
de faire ça? Bah, la vie. Mais je pense que je vais le faire.
Bon, écoutez, vu que c'est un peu le pot de chiasse, je vais vous demander ce que vous avez mangé ce soir, allez, pour terminer.
Oh là là.
Ouais, tu vas manger quoi, Guillaume, ce soir?
Ce soir, ce sera salade.
Ah bon?
Ouais.
Comment ça?
Parce que j'ai mangé tard, j'ai mangé à 16h30.
Ah, tranquille. Aurélien?
Probablement pasta.
Ah putain, bien joué.
T'as été déçu par salade?
Bah oui.
Tu as mangé pasta?
Ça te ressemble pas trop.
Pasta?
Bah, je sais pas, je vais voir.
Bon, c'est bien la peine de nous demander.
Mais non, mais je sais pas trop.
Okay.
J'aurais bien aimé manger des lasagnes, mais c'est dur à faire des lasagnes.
Oh, c'est...
Ouais, c'est un peu long.
Commande, commande.
Non, commander des lasagnes, c'est... Non, lasagne, c'est toujours maison.
Ah.
Moi, quand je vais au restaurant, je commande jamais de lasagne. Oh putain. Moi, quand je vais au restaurant, je commande
jamais...
C'est le retour du pot de chiasse.
Non, mais j'adore. En fait, c'est quoi,
c'est un podcast de société.
C'est quoi ? Parce qu'en plus, là, vous ne voyez pas, mais on est affalés sur les canapés. Là. J'ai juste envie qu'on se retrouve et qu'on parle que de tout.
Mais dites-nous en vrai, c'est en vrai, si ça se trouve, on fait un podcast ciné et l'autre semaine, c'est un podcast de société où on parle.
Tu trouves pas que les mecs qui portent des t-shirts s'ils connaissent pas les morceaux.
Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai ça.
Moi je suis sûr que les gens adorent le podcast. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le podcast traditionnel et parfois je vous lancerai comme ça sur des petits sujets. Voilà,
sans citer de nom.
Tu mettras juste le jingle podcast.
Au début tu dis ça et après au bout du troisième tu cites plein de noms. T'es trop à l'aise. Bon, écoutez, bah c'est super.
Bravo.
Là, à ce moment-là, on va rentrer chez nous.
Bah, c'est super.
On va appuyer sur stop et puis on va rentrer.
Voilà, conclusion.
Chez nous.
Bon, bah écoutez, bah c'est super.
Vas-y, bah tiens, conclue toi, Guillaume.
Oh bah merde. Bah merci à tous de nous avoir écoutés.
Oh là, tiens, ça bégaye un peu au début.
Attends, je refais. Bon bah c'est super. Merci à tous de nous avoir. Oh là là.
Oh là là.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les semaines avec le podcast TFTC. À mes côtés dans ce studio, JB et Aurélien.
Comment ça va ?
Salut les gars.
Et n'oubliez pas le Random Comedy Club.
N'oubliez pas le Random Comedy Club tous les mercredis au Jamel Comedy Club.
Bon bah très bien, on peut se quitter je crois.
Au revoir.
Allez, salut.
Bye bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.